Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique. Numérique.
Studio 404, présenté par l'AM UA.
Salut tout le monde et bienvenue au Studio 404 du mois de mars. Mais comme on est à la bourre, vous allez l'écouter en avril, normalement le 1er avril. Ah ah! Et voilà, alors on n'a pas fait toute une émission de gags, mais comme ça fait des années qu'on se dit qu'on va faire un truc spécial pour le 1er avril, on va faire un truc spécial pour le 1er avril. Comment ça va, Sylvain Palais?
Eh bien écoute, tout à fait, je suis exalté, n'est-ce pas? Car j'ai pris du poppers avant de venir.
Pour quelle raison?
Et toi, Fibre Tigre, comment ça va?
Bonjour, c'est Fibre Tigre. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, j'ai fait du Segway. Et du coup, j'ai fait un live stream dans Paris. Et mes followers, ils étaient contents.
Et toi, Mélissa, comment ça va?
Eh bien, ce soir, j'ai fait le suivi chez Slate des régionales départementales. Et bah, ça va. Bon, la gauche, c'est un peu moins qu'on pensait, mais le FN, il n'y en a pas, donc on est content.
Bon, et le féminisme se porte bien, Mélissa?
Le féminisme se porte bien. Merci. Et puis, je pense que la presse se porte bien aussi. Il y a des bons articles très longs, c'est très agréable.
Très bien, merci, Mélissa. Et on reçoit enfin Das, comment ça va, Das? Bien posé?
Ouais, j'ai appris à jouer à Elite à ma fille aujourd'hui. Ça va, elle est pas trop mongolienne, on est bien, quoi. Je pense qu'elle a de l'avenir. Je pleure à moitié, du coup.
Bon, bah très bien, mes chroniqueurs vont bien. Alors, l'émission va commencer. On remercie LG à la réalisation et Ghislain à la voix, bien sûr, évidemment. Allez, on reprend notre sérieux. C'était la fin de notre clin d'œil 1er avril avec une première fac.
FAQ.
Ah, je vous ai bien eu, hein, bon, des petits coquins. Ce qui est bien, c'est que les petites facs, en plus de ce soir, sont bien, bien corsées. Il va falloir vous remuer les méninges, les amis, pour être à la hauteur des questions. Première fac, qui est très, très sympathique, c'est Thomas Bernot, sur notre page Facebook, qui nous demande si Google avait été français, quel visage auraient les internets aujourd'hui. Excellent. Alors, imaginons avec tout le flair et le flegme et la mauvaise foi et le sens entrepreneurial français, par exemple, à quoi ressemblerait Google ou les internets aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a un qui est inspiré ou pas?
Il y aurait énormément de produits qui se termineraient par EO. C'est quand même une signature française, le
genre
EO.
Google plus EO.
Android EO. Android EO.
Ça fait un peu brésilien quand même.
Non,
YouTube EO. Ce serait Robot EO. Robotéo.
D'accord.
Tu as reçu un courrier là.
Un courrier. Après, tu parles comme Magic System en fait. C'est ça le concept de Google à la française.
Ok, d'accord. Sylvain, si Google avait été français, à la française.
C'est une question très 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 intéressante, très drôle, mais c'est très compliqué d'y répondre. Non, moi j'imagine bien un truc comme Dassault, un truc qui serait devenu une sorte de Luthor Industrie, quoi.
Ah ouais, carrément.
Un truc super evil, l'inverse du nom de Beevil, tu vois, un truc horrible, bon. qui contrôlerait l'internet et tout.
Bon, ok. Enfin, gros bisous à nos copains de chez NetVibes qui ont été rachetés par Dassault il y a quelques années, donc du coup,
les mecs
qui servent le diable. Mélissa.
Bah,
est-ce que
Internet,
tu verrais les changements?
Internet serait allé beaucoup plus lentement.
Ah oui?
Donc, on n'aurait pas. Cela dit, on n'aurait peut-être pas eu Google Wave et Google. Ou alors, si, on aurait eu Google Wave et Google Buzz. Mais il n'y aurait pas. Voilà. Et il y aurait peut-être eu moins YouTube et moins Gmail, par exemple. On n'aurait peut-être pas
y aurait,
Gmail.
Il y aurait peut-être eu une grève immédiate au bout de 15 jours pour.
On aurait G-Outlook. G-Outlook et tu vois.
Ah ouais. Ouais,
on serait encore en 36-17 à la place de www.
Ouais. Fibre, qu'est-ce qui se serait passé si Google avait été fait par des Français à la française?
Alors, déjà, il y aura un ministère Google.
Ah oui, carrément. Et Axel Le Maire, un peu, en mode CEO.
Je pense qu'il y aurait un vieux qui comprend rien. Et il y aurait une commission Google qui veillerait à ce que des gens payés 8000 euros par mois, qui veillerait à ce que les résultats soient vraiment bien, conforme aux normes françaises.
Ah, donc on aura un Google ISO.
Voilà.
Un peu, genre,
mais ce qui serait bien, c'est que les Américains, ils seraient un petit peu jaloux de nous. Donc ils créeraient un sur Google et ce serait absolument
serait
extraordinaire.
Google, qui serait Google en fait.
Ouais. Ou alors ce serait Yahoo dans une autre vie.
Ouais.
Qui aurait été énorme. Bon, en gros, on n'est pas spécialement enthousiaste par un Google français, quoi. Hein,
pas vraiment.
Non.
On aime notre pays, quoi.
Bon, ok, allez, on laisse ce Google français et on démarre avec la première chronique, et ce sera Daz.
Il est très fort.
Je déconne, c'est le 1er avril. Regardez bien. Alors, pour ceux qui nous écoutent en ce moment sur le podcast, en fait, au moment où on est enregistré, on est en train de périscoper. On en reparlera pendant l'émission sûrement, mais donc on est en train de filmer en live et c'était priceless de voir la tête de Daz parce qu'il pensait qu'il avait passé quatrième. En fait, j'ai mis premier. Non, on va commencer donc sur la première chronique, en tout cas, qui sera celle de Sylvain Palais.
Sujet numéro 1.
La réalité virtuelle, c'est le futur. Et promis, cette fois-ci, c'est la bonne.
Allez, et on rejoint Sylvain qui en fait nous rejoint. En fait, c'est lui qui nous rejoint parce qu'il est parti très très loin ce week-end. Sylvain, tu es parti dans cette fameuse réalité virtuelle dont tout le monde parle, mais cette réalité virtuelle qui est palpable, qui existe aujourd'hui, qui est exploitable, qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est à la hauteur du ramdam et du buzz?
Bah écoute, regarde-moi les yeux rougis, les paupières gonflées, la petite marque du masque sur l'arête du nez.
Effectivement, tu reviens du snowboard, quoi, c'est ça?
Effectivement, je suis allé au ski. Non, mais en couverture de Libération, au Sundance Festival, au SXSW, et puis dans tous les salons geekos, hein, c'est la nouvelle coqueluche des opérations publicitaires, c'est aussi le nouvel objectif un petit peu financier de tous les gros constructeurs. Tous les signaux sont là, les gars. Je vous le dis, je vous le répète, la réalité virtuelle, c'est le futur.
Ah, vraiment?
Et ouais, c'est là, c'est maintenant, et c'est pas juste une mode, ça va durer, ça va rester. Je vois Fibre se raidir. Hashtag taisez-vous! Oculus! La boîte créée par Palmer Luckey, un mec dégoûté de la réalité virtuelle des années 90, hein, comme nous tous, qui a décidé de ne pas lâcher l'affaire, par contre, lui, quand tous les autres en avaient marre de vomir leur trip. Donc, Oculus, donc pionnier de la VR, la réalité virtuelle, a été racheté par Facebook il y a pile un an. 2 milliards de dollars.
C'est un peu le tarif, hein, chez Facebook.
Ah, c'est le tarif, 2 milliards. Et depuis, Google, Samsung, Sony, tout le monde est dans la course. Et comme je le rappelais en intro, au Sundance, en marge du festival officiel où, vous savez, c'est les films récompensés où il pleut, et il y a un couple qui court sur une route déserte, et il y a un petit air de ukulélé derrière.
Un couple de blanc.
C'est le film français.
C'est ça, exactement. C'est le film indépendant. Et ben, il existe un autre festival qui se passe pendant le Sundance, qui est rattaché, qui s'appelle New Frontier, Nouvelle Frontière. Et chaque année, ce festival se penche sur les nouvelles manières de raconter des histoires, donc le fameux storytelling. Et cette année, 90% des contenus et des films proposés étaient des expériences en réalité virtuelle, donc souvent avec l'Oculus Rift. Et d'ailleurs, en parlant d'Oculus Rift, ils viennent de créer l'Oculus Story Studio, en débauchant au passage pas mal de mecs de chez Pixar.
D'accord, donc là, ils sont en train de créer...
un studio pour créer du contenu en réalité virtuelle.
Très bien.
Du vrai contenu quali.
Ça va la chronique quand t'es filmé en même temps sur Periscope?
Ouais, ça roule. Vous la sentez ou pas la hype là quand même de la réalité virtuelle? Parce que moi je la sens bien là. Hier soir d'ailleurs, j'ai convié quelques amis pour essayer l'Oculus à la maison. Ça ressemble à une soirée échangiste, mais c'est pas du tout ça. Donc petite soirée démo assez classique, hein, vous allez en faire de plus en plus, hein, chers auditeurs. Roller coaster pour se mettre en jambes, un petit sightline chairwind pour faire une petite balade fantastique dans des univers qui se transforment quand on ne les regarde pas. C'est très poétique, c'est
très
beau.
Ah ouais, c'est fou ça.
Et enfin airdrift pour se prendre pour un oiseau et survoler le littoral d'un petit village pêcheur. Je vais pas vous mentir, un foutre pour la première fois un Oculus sur la tête, c'est comme brancher pour la première fois sa Mega Drive, plus la première gorgée de bière,
ah ouais,
plus la première baise, plus naître. Ok, j'en fais peut-être un peu trop, si vous aviez entendu le rire cristallin de Marion volant comme un oiseau, le sourire de Romain enchaînant les loopings et les yeux brillants de Raphaël quand il a enlevé le casque, m'a regardé et m'a dit: j'ai jamais vécu un truc comme ça.
Ah vraiment, tes potes étaient
en extase. Eh bien, vous comprendrez pourquoi je considère que c'est le futur. Tous ont quitté l'appartement en me remerciant chaleureusement de leur avoir permis de vivre cette aventure. De rien, les mecs. Mais bon, il y a aussi
revenez
des petits effets.
Revenez dans le futur quand vous voulez, les gars.
Revenez dans le futur quand vous voulez. Il y a aussi des petits effets négatifs. Hein. Sarah, je me souviens, j'ai encore cette vision, en position fétale dans le canapé, fermant les yeux sous le casque, car elle a peur du vide et qu'il était trop bien retranscrit, ce vertige, dans l'appli qu'elle a testée. Les mains d'Alice qui tremblaient encore après s'être fait grimper dessus par une araignée virtuelle. Les réactions sont différentes, elles sont physiques, elles sont psychologiques, les stimuli sont les mêmes. En fait, c'est comme dans la vraie vie.
Carrément.
Et maintenant quoi? C'est quoi la réalité virtuelle demain? C'est quoi la réalité virtuelle dans 5 ans? C'est quoi la réalité virtuelle dans 20 ans? Pour répondre à ces questions épineuses, je suis allé discuter avec un monsieur qui s'appelle Romain Vissol et qui est cofondateur de Black Sheep, un studio de production qui s'intéresse de très très près à la VR, la réalité virtuelle.
Et donc t'as bossé ta chronique?
J'ai bossé ma chronique, je suis allé interviewer un mec.
Interviewer un pote. Hein,
j'étais bien en relation.
Non, attends, il a fait une réunion tupperware chez lui, il est sorti ensuite.
Collusion Doritos.
Et donc, attention, interview Laurent Boyer, interview qu'avec des phrases sans verbe. Alors, la réalité virtuelle, les tops, les flops. Et bah pour Romain, deux secteurs sont déjà en passe d'être complètement retournés par la réalité virtuelle, c'est le jeu vidéo et le porno, comme d'habitude. Les constructeurs des premiers, donc des jeux vidéo, sont déjà en train de créer leur propre casque, Sony, Valve, ouais. Et les producteurs des seconds sont déjà complètement hypés dès qu'il y a un petit peu d'innovation qui se ramène dans le divertissement. Le point commun entre les deux, le POV, le point of view, la première personne. Beaucoup de jeux sont des FPS qui se jouent à la première personne, mmh. Et dans le porn, pareil. Il y a beaucoup de porn qui se jouent à la première personne, si je puis dire.
Tu puis dire.
Je puis dire. D'ailleurs, j'ai testé le porn.
Alors ?
Et je me suis dit, pourquoi encore dater des meufs, en fait ? Alors, ça sert à rien. Tout est là.
Mademoiselle, si vous êtes sur Tinder et sur Apple, et que vous croisez Sylvain Palais, n'oubliez pas que cet homme vous jugera en vous disant, elle est réelle, mais vaut-elle vraiment la peine ?
C'est clair.
Je peux pas me la strapper sur la tête.
Bon. Non, c'est un truc de...
Vous verrez. Ah, donc vraiment, c'est à la hauteur.
Vous verrez.
Et là, sur Periscope, plein de cœurs.
Ah ouais, c'est juste un truc de fou.
Un gis de cœur.
Suite de l'interview, Romain, entre nous, la grande famille du cinéma et le film dans tout ça. Alors là ça se corse. Le ciné, c'est pas du POV. Le spectateur, oui. C'est un témoin assisté. On lui dit où regarder. Le principe de la réalité virtuelle, c'est que on regarde où on veut, en fait. Donc comment faire pour raconter un truc à quelqu'un qui regarde autre part?
Ah oui, c'est compliqué ça.
C'est très compliqué. Donc toutes les techniques classiques, le zoom, le travelling, la profondeur de champ, le cut, ne fonctionnent plus. Il faut inventer d'autres choses, d'autres systèmes. Donc un siège à rotation automatique, pourquoi pas. Le son en 3D spatial pour attirer l'attention à gauche, à droite. Des repères visuels comme la fille en rouge que Neo croise dans Matrix. Pourquoi pas. Petite mise en abîme. Tout ça et pas mal d'autres choses qui n'existent pas encore, effectivement. Mais Romain, isolation, solitude, le partage dans tout ça, c'est justement là que ça devient intéressant.
On va t'acheter un 3/4 nain, on va te peindre les cheveux en blond, mec. Je vais te le renvoyer, parfait.
Je vais te donner deux exemples. Le premier, c'est Keep Talking and Nobody Explodes. C'est un jeu qui se joue à plusieurs. Il y a un mec qui a un Oculus Rift sur la tête et qui doit désamorcer une bombe. Les autres ne voient pas la bombe, mais ils ont un tuto de désamorçage super complexe, genre plein de feuilles A4 dispersées sur une table.
Donc les gens ne voient pas ce que lui voit.
Voilà, et lui il dit la bombe, voilà, donc il y a un fil rouge et puis un compte à rebours et puis oh, ça vient de flasher en vert et puis ça sonne. Et les mecs sont là avec une feuille et disent alors attends, tu dis quoi, flasher en rouge, machin. Et ils essayent de tout reconnecter en disant alors tu dois voir ça. Non, merde, c'est pas ça. Et ils paniquent comme des fous parce que t'as 5 minutes pour désamorcer le truc.
Génial.
Deuxième exemple, un film de braquage à la Ocean's 11. Sauf qu'on est 5 à le regarder avec chacun un Oculus Rift sur la tête et chacun un point de vue différent. Et à la fin du film, on se raconte ce que chacun a vu, vécu. Imaginez tout ce qu'on peut inventer.
Tip top.
C'est assez incroyable. Dernière question, la réalité virtuelle, dans 10 ans. Dans 10 ans pour Romain, et je suis d'accord avec lui, dans 10 ans, la seule différence qu'il y aura entre la réalité et le virtuel, c'est le poids du casque que tu trimballeras sur ta tête. La technologie se rapproche de plus en plus du corps, on en parle souvent ici. La prochaine étape, c'est les lentilles, puis peut-être directement le nerf optique.
Voilà, carrément.
Et ouais. Dans 50 ans, non, pas dans 10 ans, dans 50 ans, 60 ans.
Là, c'était le rire de Das qui rit du présent. C'est le bon sens du présent qui se moque
comme
du futur, ça.
Comme d'habitude.
En fin de compte, de nouvelles manières de raconter des histoires, ça veut aussi dire de nouvelles façons de ressentir des émotions. Et j'attends impatiemment, et je pense que ça va arriver très vite, de verser ma petite larme directement absorbée par la mousse de mon casque de réalité virtuelle.
Oh, oui. Tu ne pleures pas.
Petite larme des yeux, tu veux dire?
Petite larme des yeux, oui. Oui, d'accord, Daz, c'est dégueulasse.
Je n'ai rien dit. Absolument.
Ah, c'était une blague sur le porno, la petite larme.
Absolument pas, tout est suggéré, car nous sommes dans la suggestion. Voilà.
Dans la subtilité, de la subtilité.
Oui, c'est très subtil.
Bon, qui a testé une expérience moderne de réalité virtuelle? Donc, on parle évidemment de l'Oculus Rift, mais il y a d'autres produits qui sont sortis. Il y a le Gear VR chez Samsung qui est basé sur la technologie de l'Oculus Rift. Il y a le projet Morpheus chez Sony.
J'ai fait Star Tour chez Disney.
Le Vive. Star Tour. Mais c'était même pas la réalité virtuelle.
Non, c'est de la merde.
D'accord.
Non, merci. C'est vachement bien Star Tour.
Non, je l'ai refait justement et je jouais à Elite avec l'Oculus et j'ai eu vraiment l'impression de perdre mon temps là il y a 2-3 semaines.
Toi, Das, tu as testé le jeu vidéo, pas le porno évidemment, c'est pas pour toi. Mais
non, mais j'ai pas trouvé de vidéo compatible.
D'accord, mais toi, tu as testé au moins le jeu vidéo avec l'Oculus.
Ouais.
On parle beaucoup d'Elite entre nous, mais on parle beaucoup d'Elite parce que c'est un des jeux qui met le mieux en valeur ça.
Qu'est-ce qui se passe?
Toi, t'as accroché du coup ou pas?
Complètement. D'accord. Autant l'Oculus, pour moi, quand j'avais testé sur des FPS et des choses comme ça, même les trucs de démo, j'avais trouvé l'expérience réussie, mais j'avais pas accroché plus que ça.
Ouais.
Parce que y a quand même la notion de gerboulisme. Hein. Ton oreille interne, en fait, quand le perso se déplace en marchant et que toi, tu restes assis, ton cerveau comprend pas trop et c'est ça qui, voilà. Dans Elite, ce qui est cool, c'est que t'es assis et le pilote dans le jeu est assis. Et du coup, là, pour le coup, la body awareness et le sens de l'échelle, il est complètement ouf parce que t'es dans la position du joueur voulu par le jeu
Et du coup, c'est totalement immersif.
D'accord. Et même tes mains sont disposées pareil, hein, puisque ouais. tu joues avec des joysticks et dans le jeu aussi.
Et quand tu regardes tes mains dans l'Oculus, tu vois les mains en 3D du pilote.
Et ça, c'est très très important dans la réalité virtuelle de voir ses mains en
body
fait.
Body awareness.
C'est pour ça que dans les pornos, souvent, ils te les attachent. Et là, je regarde Periscope dans les yeux.
Tu penses qu'on va avoir une première génération de production porno où tu n'auras pas vraiment de bras libres parce que
ah,
tu pourras
sûr,
pas.
Ah, c'est sûr. Pour l'instant, l'acteur dont tu incarnes le rôle. Ouais. Que ce soit un garçon ou une fille, hein, j'ai fait les deux. Je me suis mis dans la peau d'une fille.
Oui.
Je me suis fait un petit peu
léché.
Je me suis fait péter le voilà quoi, par un homme, une personne qui s'appelle Miguel et qui me susurrait des choses en espagnol à l'oreille. C'est une expérience absolument folle.
Hola qué tal.
Et donc c'était absolument fou. Mais du coup le personnage donc qui se fait faire des choses ne bouge pas, il est immobile.
D'accord.
Parce que sinon c'est trop compliqué de s'y
oui.
dans le truc.
Ok. De l'autre côté de la mer, passons sur la East Coast. Mélissa, Fibre, avez-vous déjà testé? Et si vous n'avez pas testé, est-ce que vous êtes convaincu par l'avenir que vous dessine Sylvain?
Moi, j'ai testé.
Alors, Fibre.
J'ai testé l'Oculus aux différentes étapes dans les salons de jeux vidéo notamment. Et jusqu'à très très peu de temps, j'étais pas du tout convaincu parce que si la technologie elle fonctionne.
Ouais.
Je voyais pas la valeur ajoutée en fait. Ok, on regarde autour de nous, mais en fait, au bout d'un moment, quand on joue à un jeu vidéo par exemple, on abstrait les choses et on n'est plus dans la contemplation, on est dans la résolution de choses. Donc, je voyais pas l'intérêt. Et dans les films par exemple, je voyais pas l'intérêt non plus parce que il y a tout un talent qui est celui de la mise en scène, celui du plan.
Donc là-dessus, tu rejoins voilà. ce que disait Sylvain, c'est qu'il y a un langage qui fait qu'à un moment, tu ne peux pas laisser de souveraineté, on va dire, au spectateur.
Alors, exactement. Mais avec les exemples précis de Sylvain, qui est
sur le porno.
Pendant, je me prononcerai pas. Mais
si tu veux te prononcer sur le porno.
Non, mais par exemple, le film dans lequel effectivement il y a 5 personnes qui voient une scène de façon différente, mais tout en étant des acteurs.
Oui.
C'est très très intéressant, ça pose de nouveaux challenges intellectuels, à la fois de conception et à la fois aussi d'appréciation. Effectivement, s'il y a un accompagnement intellectuel de la création qui se fait, on va dire que c'est peut-être le véritable début de la réalité virtuelle qu'on n'a pas eu jusqu'à présent et le frein n'était pas uniquement technologique.
Ce ne sera pas D'accord. du film, ce ne sera pas du cinéma, ce sera un autre...
Ce sera peut-être un autre genre, moi j'en ai discuté avec Romain et il me donnait l'exemple de Gravity. Gravity, c'est un film qu'on pourrait voir en réalité virtuelle.
Au moins les
parce que c'est un film où il n'y a pas d'action, il y a des
merci pour
non mais il y a pas vraiment d'action, c'est pas surcuté, il y a que des plans séquences pratiquement.
Oui,
et ça c'est très important en réalité virtuelle, on peut pas oui. te cuter au milieu d'une scène et te retrouver autre part, c'est très compliqué. Et en fait il me disait que les films de réalité virtuelle c'est beaucoup de contemplation en fait, comme tu disais, c'est vraiment des beaux paysages, pouvoir balader son regard et voir les choses, et effectivement pas trop de l'action.
Alors,
Mélissa.
Donc, je suis la seule à ne pas avoir testé.
Mais de ce que j'ai entendu, c'est
que je suis pas invitée aux soirées de cible.
Mais t'es pas de Saint-Etienne.
Bah, il faudrait que tu me suives sur Snapchat, comme ça tu seras au courant.
T'es pas de la hype. Bon, j'ai arrêté le périscope. T'étais très convaincue, Mélissa.
J'étais très convaincue.
Non, enfin, tu es très convaincue.
Parce qu'on avait déjà fait ce débat réalité virtuelle vs réalité augmentée. J'avais dit réalité augmentée.
Oui.
Je suis toujours d'accord avec moi-même.
Mais de toute façon, il faut pas les opposer.
Mais de toute façon, il faut juste tester la réalité virtuelle. Et j'ai pas encore fait ça.
Alors, dans ce qui est jeux vidéo, nouvelle narration, porno, etc., qu'est-ce qui t'a le plus convaincu ou impressionné en tout cas?
Mais j'ai rien testé, donc je peux pas.
Non, mais de ce que Sylvain t'a dit en tout cas.
Bah, je pense que le porno, ça doit être.
Le porno, ça doit être
fou.
C'est incroyable.
C'est marrant, moi, je le sens pas très bien.
Ah ouais.
Mais attends, il va y avoir énormément d'argent qui va être investi là-dedans.
Oui, c'est sûr. Mais effectivement, quand tu parlais tout d'un coup, on a des limitations artificielles très vite qui.
Ouais.
Oui.
C'est-à-dire que en tant que scénariste porno, ce qui n'est pas déjà un job très facile, hein, c'est un peu comme être musicien à l'ère du 8-bit, quoi. En gros, il te reste pas grand-chose.
Symphoniste de 8-bit.
Voilà. Si en plus on te dit bon, alors en fait la meuf elle est en étoile de mer, ou alors le mec il peut pas bouger, il a les bras attachés, la bouche bâillonnée, il va falloir attendre des...
Ça marche quand même bien même comme ça. Et tu sais que de toute façon c'est dans la contrainte qu'on est le plus créatif.
Oh, c'est beau.
Oui, c'est vrai, de là que vient le plaisir, exactement.
Quel bon vendeur, c'est
magnifique,
c'est
ce
débat. Bon vendeur, c'est donc, vous êtes tous d'accord? On est tous d'accord là-dessus, non, pour dire qu'il y a un gros avenir autour de ça.
Je pense que ça reste... C'est un très bon truc pour des utilisations spot. Je ne le vois pas intégrer le quotidien, en fait. Ou assez difficilement.
D'accord. Ah oui, donc toi, tu vois plutôt comme une utilisation
très
ciblée,
spot,
ponctuelle,
voilà,
voulue.
C'est un truc qui marche, clairement, mais pour moi, ça va pas. Enfin, ça peut pas se retrouver dans tous les foyers, en fait.
Moi, j'imagine une utilisation quotidienne avec les cardboard et les téléphones, en fait.
D'accord. Donc toi, tu vois plus quelque chose de portable, sans fil, etc.
Et je vois surtout bientôt la création de contenu, c'est-à-dire qu'il va y avoir des GoPro ouais. qui pourront filmer en 360 degrés.
Ouais.
Et Facebook a annoncé cette semaine-là, la semaine dernière, pour le F8 développeur conférence, qu'ils intégraient les vidéos 360 degrés dans les timelines.
Ok. Et donc, alors, ma question, ça veut dire qu'actuellement, bon, t'as un pote qui fait une vidéo sur Instagram, qui la publie sur Facebook, tu regardes sa vidéo qui dure 27 secondes, là, tu vas dire « Ah, attends, je vais chercher mes lunettes, hein ?» Je mets mon casque sur la tête et là je clique sur la photo, la vidéo de famille dont tout le monde se contrebranche. Non, il y a trop de contraintes.
T'as sûrement raison. Non, mais il va y avoir un gros taux de pénétration par le jeu vidéo. Par contre, Sony va vendre son casque avec sa PlayStation et
même sur le jeu vidéo. Encore une fois, moi, je suis pas sûr que tous les jeux s'y prêtent, malgré le fait qu'on s'oriente vachement sur les FPS. Pour moi, les FPS, c'est la dégueulade assurée, quoi.
Comment vous voyez ça, sur ce point de vue ? Est-ce que vous voyez une réalité virtuelle qui est partout, quitte à être intégré, à frôler la réalité augmentée, ou est-ce que vous voyez une réalité virtuelle qui est ponctuelle et sur un usage unique à 100%, vraiment, on se pose, on met ses lunettes, etc.
Moi, je pense que ça va rester pour l'instant du divertissement. Après, je ne sais pas quelles seront les évolutions. Pour l'instant, il n'y a pas encore assez
Donc, pour toi, c'est plus un instant T qui est marqué.
Tu ne sortiras pas dans la rue avec ton Oculus dessus.
Ça fait la taille des lunettes.
Il reste à mon sens, une dernière barrière dans la réalité virtuelle. C'est le fait qu'on déconnecte complètement et on est dans ce monde virtuel. Mm-hmm. Et on n'est plus dans le monde réel. Et bizarrement, c'est une grosse contrainte. Parce que, effectivement, vous êtes en train de regarder votre film, vous savez pas ce qui se passe à l'extérieur. Ouais. Et si on les rend plus légères, et si on, à n'importe quel moment, en un battement de paupières, on peut hop se retrouver dans le réel, c'est-à-dire checker en permanence, exactement comme quand vous avez un iPhone, vous regardez autour de vous, mais vous êtes en train aussi de regarder votre fil Twitter quand vous marchez dans la rue. Si on arrive à cette fluidité-là, là, on aura quelque chose d'intéressant.
Il faudrait regarder le très mauvais film The Purge, je pense, dont la seule bonne idée est que le.
The Purge.
Oui, c'est un film où une fois par an aux États-Unis, tous les crimes sont permis. Ouais.
Ah oui, exactement.
American Nightmare, le.
Mais
il y a des lunettes de réalité virtuelle qui sont comme des lunettes de soleil normales, légères.
Le gamin, il a ça.
Voilà,
il
pilote son petit robot.
J'annonce que
suite
au feedback de Sylvain, offline et pendant sa chronique, je vais m'acheter un casque.
Pour quelle raison, Phil?
Parce qu'on a parlé beaucoup de. On a parlé
porno.
Beaucoup...
Écoute, pour une raison de défiscalisation, parce que je pense mon argent. Voilà.
Tu vas te défiscaliser tous les soirs. Bon, on va arrêter là parce qu'il y a trop de blagues graveleuses possibles. En tout cas, on est tous plutôt d'accord sur le fait que ça va cartonner. On se pose juste des questions sur la manière dont on va l'intégrer dans nos vies de tous les jours. Si ce sera omnipotent ou ciblé. On vous laisse réagir sur les internets.
FAQ.
Bon, on a retiré nos lunettes, retour à la vraie vie, retour au FAQ, les amis, avec plusieurs personnes qui m'ont posé des questions sur Periscope au hasard et sur Meerkat évidemment. Donc je les remets en contexte très rapidement. Periscope et Meerkat sont deux applications de stream depuis un mobile. Ça veut dire que, comme on l'a fait tout à l'heure en début d'émission, vous avez allumé votre mobile et ce que vous filmez, les gens le voient, c'est sans fil, c'est très mobile. On parle déjà de la révolution de l'information, du journalisme citoyen qui passe encore un nouveau degré, de plein de choses. Donc Valentin Levessel sur Facebook, Jean-Philippe Siffer sur Facebook, Je suis pas joie sur Twitter nous posent tous plus ou moins directement des questions là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ces applications et de ce qu'elles peuvent apporter? Est-ce que, encore une fois, c'est Fibre pour hurler au feu de paille, qui ne sera peut-être du coup pas un feu de paille, ou est-ce qu'on voit quelque chose d'énorme arriver là? Fibre, je commence par toi parce que c'est intéressant, parce que toi, t'aimes bien les applications de streaming mobile de base.
J'adore ça et j'adore Periscope.
D'accord.
Coup de cœur dès le premier coup. Enfin, en faisant abstraction de ce que c'est, l'interface est super.
Oui.
C'est super bien foutu, ça marche bien.
C'est simple.
Stream de qualité, rapide, pas en Wi-Fi.
Ouais.
Donc, l'application est belle et marche bien. Et c'est génial, c'est tout. Je veux dire,
laissez être enthousiaste.
Excusez-moi, mais vous lancez Periscope et vous avez des streams. Vous êtes tout d'un coup, et là on parlait de réalité virtuelle, tout d'un coup à l'autre bout du monde, aux États-Unis. Et là vous avez vraiment vous voyez qu'il fait nuit alors que chez vous il fait jour, que les gens ils parlent pas pareil.
Il y a une immédiateté, il y a pas de triche possible.
Il y a une autre résolution, donc vous voyez même les détails, les langages différents, et vous allez d'un pays à l'autre, c'est de plus en plus le futur dont on rêvait dans les années 80.
Voilà. Très bien. Mélissa, qu'est-ce que tu penses de Periscope et de Meerkat? Donc, on vous rappelle, Periscope, c'est celle qui a été rachetée par Twitter Et Meerkat, c'est celle qui est la plus connue en ce moment.
Celle qui a préparé le terrain et qui va se faire baiser, surtout.
C'est ça. Parce que le lancement de Periscope, c'était il y a 2 jours et tout le monde ne parle que de ça.
Oui.
Et Nicolas Sarkozy a même fait son allocution là, du second tour ce soir. Elle a été diffusée aussi sur Periscope.
Il a écouté ton petit guide de l'homme moderne, de l'homme politique moderne sur les réseaux sociaux.
Son équipe de com à l'UMP a peut-être fait quelque chose. Du coup, il y avait quelqu'un avec un iPhone qui tenait son truc. C'était un peu flou, mais bon, on voyait le truc. Mais ce qui était génial, en fait, c'est que donc, sur Periscope, on voit les commentaires en direct.
Ah, on voit le texte défilé.
Ouais, et donc là, tu voyais tous les commentaires des mecs qui disaient « Petit zizi, escroc, tu devrais être en prison !»
C'est vrai.
En fait, c'est génial parce que comme le truc a 2 jours, les mecs ont juste pas pensé aux commentaires. Et donc, j'étais genre « Mais ouais !» Et comme c'est encore nouveau, bah, les mecs, ils se font avoir comme des noobs. Quoi.
C'est bien, c'est cool.
Ouais, c'est bien. Sarkozy, comme bêta-testeur, je trouve qu'on a fait pire. On a fait pire. Sylvain, alors.
Eh ben, je suis de la Wi-Fi, moi.
Oui.
C'est le futur.
C'est le futur.
C'est le futur d'Internet. C'est,
Toi, tu vois le futur partout, soir.
Streaming
mobile, tout, tu vois.
Tu vois, moi, j'ai comparé ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire, il y a eu une explosion à New York.
Oui.
Et il y a eu, dans un building, et il y a eu les premiers périscopes qui se sont ouverts, comme ça, un petit peu partout. Et tu pouvais voir en temps réel les secours arriver et jumper de stream en stream et d'avoir plein de points de vue différents, etc. Et moi, ça m'a fait penser en 2009. En 2009, à l'atterrissage d'un avion sur l'Hudson River.
Tout à fait.
Qui avait un petit peu entériné Twitter comme le nouveau truc du temps réel, etc., le journalisme citoyen. Donc, autant avec Twitter, on a eu vraiment l'avènement du temps réel. Pour moi, là, c'est l'avènement du live, du continu, en fait.
D'accord. Donc, tu y crois aussi très fort.
J'y crois
très
fort.
On en parlera plus tard, mais c'est vrai que c'est intéressant. Du coup, Twitter peut devenir une sorte de plateforme d'information absolument surpuissante, que ce soit à l'écrit, en photo, en chose. Daz, est-ce que tu as testé Meerkat? Est-ce que tu as testé Periscope?
J'ai installé Periscope, ouais. Je trouve l'appli très sympa.
Oui.
Par contre, j'arrive pas à voir ce que ça ramène de plus qu'une appli comme Ustream ou, je sais pas ce que tu utilises pour streamer quand tu filmes les 404 de temps en temps. Mais concrètement, t'as un smartphone, il fait de la vidéo, t'appuies sur un bouton, tu broadcastes. Le seul intérêt de Periscope, c'est le lien avec éventuellement tes contacts Twitter qui sont aussi inscrits sur la plateforme.
Ouais. Oui, c'est très puissant. La masse critique.
Voilà. Mais c'est tout. Enfin, c'est juste des fonctions de réseau. Enfin, il y a pas de le truc pour moi.
Mais ça fait la différence pour toi, l'intégration.
Parce que du coup, t'as tes réseaux.
Non, mais ça veut dire que Ustream
tombé sur des trucs qui sont.
Non, mais ça veut dire qu'un Ustream qui aurait utilisé une API Twitter pour te dire tiens, ben c'est user sur Ustream.
C'est ce que faisait Meerkat et Twitter leur a coupé l'API.
Non mais voilà, donc je suis complètement d'accord sur l'ubiquité. On arrive à voir des trucs à des points de vue incroyables. Ah, il fait nuit là-bas, c'est génial. T'aurais pu regarder une montre et 30 secondes qui faisait nuit là-bas, c'est super. Mais c'est le principe des fuseaux horaires en fait. Mais
il y a l'abstraction et il y a la réalisation des choses.
Oui.
Et d'ailleurs, souvent, on voit il y a des Norman, il y a des Cyprien qui ont réussi avec beaucoup de post-prod et des caméras et du matériel. Et là, la caméra sort de la chambre du mec et elle est partout et c'est extraordinaire.
Oui, mais il y a pas d'effet, il y a rien.
Ça fait quelques années depuis que les réseaux mobiles supportent des connexions sympathiques que
est-ce que du coup c'est un peu comme Instagram, il y avait déjà des réseaux et des applications avant Instagram.
Instagram en fait ça n'a pas ça répondait à un truc qui n'existait pas trop, le partage de photos et uniquement de photos.
Si, ça existait déjà. Il y avait Samatic, par exemple. Il y avait des applications, des choses comme ça. Mais bon, ça, on
enfin voilà. Moi, je trouve qu'effectivement, l'appli est très sympa. Moi, je l'ai installé aussi pour voir un peu ce que ça donnait. Et je trouve ça cool. En plus, il y a des fonctions de replay. Donc, c'est là que ça prend le contre-pied de d'autres trucs comme Snapchat, par exemple. Oui. Voilà. Mais je trouve pas ça révolutionnaire en soi.
D'accord. Donc, un petit peu.
Bah, l'appli est jolie, mais ouais, je suis pas.
Non, mais comme d'habitude, c'est pas le produit qui fait le truc, c'est les usages, tu vois. Donc, je pense que la révolution, elle va être dans les usages et les gens qui. C'est vrai.
Merci Sylvain pour ce patronizing.
3 enthousiastes et 1 demi-enthousiaste, c'est pas mal. Allez, 3,5 sur 4 pour Periscope.
Sujet numéro 2.
Justin Bieber, Star Wars, Twilight et érotisme, bienvenue dans la fanfic.
Fibre, on est de retour avec toi.
Oui.
Que se passe-t-il, Fibre? De quoi veux-tu nous parler? Où veux-tu nous emmener?
Alors, ce soir, on va parler fanfic.
Ah, la fanfic. Parce que Fibre, quand même, on avait fait un petit gag de fanfiction le mois dernier.
Oui.
Pour Fifty Shades of Grey. Mais toi, t'as quand même beaucoup de choses à nous raconter sur la
question. Voilà, tout à fait. Alors, il y aura un petit habillage musical ce soir.
Ah.
Voilà, réalisé par Ghislain. Ma chronique va être entrecoupée d'extraits de fanfiction.
Des vrais extraits de fanfiction.
Des vrais.
Certifiés, bio.
Et les spécialistes d'ailleurs les reconnaîtront, parce que c'est pas n'importe lesquels que j'ai choisis. Et donc voilà, vous saurez faire la différence entre ma chronique et la fanfiction.
D'accord.
Alors, le 9 avril 2006 à 17h06 sur le forum Game Cult, un mystérieux Sylvain06 ouvre un thread intitulé Fanfic Dragon Ball NG. et écrit simplement les mots mystérieux « Voilà mon histoire ». Rien de plus.
C'est ça une science-fiction.
Le 10 avril 2006, donc le lendemain à 21h02, Sylvain06 revient. Ouais. Et là, il publie un deuxième post avec le premier chapitre de sa fanfic que je vous lis. Quelques années après la mort de Shenron, tous nos amis décidèrent d'aller se reposer à la campagne, sauf Sangoten qui continuait à s'entraîner chez Tortue Géniale et qui était devenu très fort. Tortue Géniale, 2 points. Sangoten, continue à t'entraîner, je vais boire un peu, il fait extrêmement chaud ici. Sangoten, 2 points, ok. Mais à ce moment-là, une énorme explosion se fit ressentir sur les 4 coins de la galaxie. Fin du chapitre 1.
Bravo.
Oui, le premier contact avec l'univers de la fanfic fait un peu bizarre, d'autant plus que nous, Français, nous avons une autre très haute opinion de la littérature. On cite Proust et Hugo, mais on lit les Lévy et autres Musso en cachette. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la différence entre Les Misérables de Victor Hugo et Star Wars ?
Il y en a pas mal, normalement.
Oui, il y en a beaucoup. Mais il s'agit de 2 objets culturels. Le premier, donc Les Misérables, appartient à tout le monde. C'est-à-dire, il y a eu un jeu de baston sur Les Misérables. Je suis allé à la FNAC le jour, il y a un manga sur Les Misérables. Et l'autre, par contre, il appartient à une société à but lucratif qui ne veut rien lâcher. Et entre les deux extrêmes, existe un territoire de liberté un peu flou qui est le fan art ou la fanfiction, c'est-à-dire une œuvre produite à but non lucratif par des amateurs dans le cadre d'un univers généralement non libre de droit.
D'accord, donc en gros, des fans d'une saga ou d'un univers qui vont écrire des histoires au sein de cet univers.
Exactement, fans de Star Wars par exemple.
Oui.
Donc, un autre extrait tiré d'une fanfic que vous allez reconnaître qui s'appelle Justin Bieber sur Skyblog.
Le légendaire.
Cassie, 2 points. Hey Justin, ça va ? Smile. Justin, bah oui, et toi ? Cassie, impec. Justin, allez, assis-toi à côté, je vais pas te bouffer. Cassie, smile, bon dac. Il commença à caresser entre mes jambes. Apparemment, ça lui faisait de l'effet, il bandait, ER.
Très célèbre fanfiction sur les Skyblogs.
Voilà. Alors, moi, Fibre Tigre, je lis de la fanfic. J'ai écrit et j'écris sous pseudo, toujours de la fanfic.
C'est vrai.
J'ai même écrit des fanfics de fanfic, j'ai dragué avec de la fanfic, j'ai donné corps au tout début au personnage de Fibre Tigre avec des fanfics, et j'arpente des conventions comme le Salon de l'Imaginaire ou Japan Expo, par exemple, pour les gens qui connaissent, où l'on vend des fanzines qui mélangent créatures d'animés, vampires, steampunk, zombies, et je suis ici pour parler de la fanfic vue de l'intérieur.
Ah!
Alors
déjà, on est bien là. Hein.
Voilà.
Depuis tard, tu nous as mis bien.
Avant 1996, avant le web populaire, donc, on avait une chose qui s'appelait le fan club. Donc, les jeunes ne connaissent pas ça. C'est une association, mais souvent c'était un particulier, un fan de Star Trek par exemple, qui coordonnait les différents fans sur la France et qui éditait éventuellement une lettre papier. La fanfic ou le fan art n'est pas une créature de l'internet. Elle est issue d'une boulimie de l'imaginaire. Et comme les boulimies, vous savez, on mange n'importe quoi, on ouvre le frigo, et bien là, n'importe quoi, de n'importe quelle qualité, peut combler cette boulimie de l'imaginaire.
Ah, donc les gens avaient besoin. Ok, je te laisse.
Lucius entra dans les appartements de son maître qui était en train de baiser un jeune homme attaché au montant de son lit. Le jeune homme se prénommait Harry Potter. Il était de petite taille, il avait des cheveux noirs comme l'ébène, avec des reflets roux et des merveilleux yeux émeraudes. Dès que le maître de Lucius eut fini, il se retourna vers ce dernier. « Que faites-vous là ?» Lucius demanda avec étonnement Lord Voldemort, tout en remettant de l'ordre dans sa tenue.
Vous savez quoi ? J'ai vu le visage de Sylvain Palais qui a vu ce truc porno. Il a imaginé en réalité virtuelle sur cette fanfiction. Il était là, genre, il était Harry Potter.
Il avait un peu chaud déjà.
Dans la mythologie grecque, Agamemnon doit sacrifier sa fille Iphigénie pour satisfaire les dieux. On la met sur un bûcher, elle meurt. Eh bien, cette histoire fait pleurer tellement de gens dans l'Antiquité qu'il existe des fanfics de l'Antiquité qui racontent qu'en fait, au dernier moment, Ménon, Aphrodite aurait substitué une biche à Iphigénie et l'aurait sauvée. 4000 ans plus tard, Internet arrive et accélère les cycles générationnels. Vous ne pourrez jamais lire toutes les fanfics, il y en a des millions. Il y a plus d'auteurs que de lecteurs. Mais c'est logique, la fanfic est issue d'un besoin d'imaginaire de l'auteur et pas du lecteur. Alors, petite anecdote, on parle souvent de crossover dans les fanfics, c'est-à-dire qu'on fait coexister deux univers dans une histoire. Mais ces crossovers sont le miroir de l'imaginaire de celui qui écrit. Vous êtes fan de Harry Potter et de Twilight ? Eh bien, faites coexister les deux. Voici quelques exemples authentiques. Sherlock Holmes à la chasse aux Pokémon. Legolas et Scooby-Doo. James Bond et Pinocchio et Dragon Ball Z sauve Anne Frank.
Histoire réécrite.
Je suis fan de Dragon Ball Z et du troisième âge.
Un extrait.
Sarkozy errait sans but depuis sa défaite. Après 5 verres, il se mit à vouloir faire de la musique. Il se drogua donc. Son premier clip fut un succès, mais qu'au Japon.
C'est un extrait de Fanny, ça ?
Oui, c'est vrai.
Ben, c'est vrai, c'est faux.
Sur
c'est vrai.
Noelfic, jeuxvideo.com. La fanfic est donc l'expression écrite de fantasmes personnels. Sous cet angle, la fanfic n'a pas besoin de lecteur, juste d'auteur. C'est souvent le cas et personne ne se plaint. Et Internet bouscule les choses. Il a donné à tous une capacité à écrire, et une capacité à écrire surtout de façon décomplexée, parce que quand on lit ce qu'on lit, parfois on est content d'écrire ce qu'on écrit.
Ça voulait rien dire, mais ça voulait bien exprimer ce que ça voulait exprimer.
Ça marche.
Les réseaux sociaux se nourrissent de culture populaire, ou est-ce l'inverse ? Dans un monde qui vend du loisir et qui tourne autour du taux d'engagement, la fanfic ne serait-elle pas, cher Sylvain, un indicateur pertinent et passionnant de succès ? Et oui, j'en parle, mais Fifty Shades of Grey a bien commencé comme une fanfic Twilight et s'est tout terminé en propulsant son auteur dans les 100 personnes les plus influentes de Time Magazine.
Cette musique.
Moi, j'en trouve très bien.
Moi aussi.
Elle m'excite un peu, ça, le problème.
Chapitre 5, la vengeance du Marseillais. Stéphane se chargea de la remise en jeu. Il décala le ballon à Valbuena, qui le passa en retrait. Pendant ce temps, Stéphane chercha tout de suite à se mettre en bonne disposition pour recevoir le ballon. Mbia le passa à Bonnard, qui fit une transversale jusqu'à Stéphane, qui contrôla le ballon d'une belle amortie de la poitrine. Au fond de Chichoun, ces Zagliati sur le terrain, putain, Dios mio, s'exclama Pablo Suarez, qui était retourné dans le virage.
Oh, Stéphane, il s'est mis bien aussi dans sa fanfic.
C'est grave, il s'est fait trop bien.
Si en France, nous avons le mépris le plus souverain pour ces petits joujoux, aux USA, c'est serious business. Pour terminer cette chronique, je vais vous dire une anecdote réelle. Je suis allé à un cercle d'écriture technique, qui s'appelle l'Oulipo, en langue anglaise à Paris, qui réunissait à la même table Harry Matthews, donc c'est un écrivain, poète, un vieil homme avec un chapeau new-yorkais, de l'intelligentsia new-yorkaise.
Le Gandalf de la poésie, quoi.
Voilà, c'est ça, hyper respecté. Et à côté de lui, la responsable fanfic Harry Potter US, qui avait des cheveux verts. Et l'un et l'autre, toute la soirée, ont fait partie du même monde, celui de l'écriture.
D'accord, donc il n'y avait pas de mépris, il n'y avait pas de séparation.
Exactement.
Pas de ségrégation.
Et là, voilà. Est-ce que c'est pas ça le plus important, c'est-à-dire le fait qu'on soit tous réunis autour de l'écriture ?
Oh, c'est beau. Une
belle chronique, hein ?
Très belle chronique. Et puis alors, tu nous as fait voyager dans combien de réalités parallèles, là ? C'était fou.
Ça montre l'intérêt de la fanfic.
Juste avant d'attaquer le débat, on redit bien que tous les extraits de fanfiction que tu as cités et tous les crossovers de fanfiction que tu as cités sont tous réels et se trouvent sur Internet.
Oui, tout à fait. Vous pouvez écrire ce que j'ai dit sur Google, vous les retrouverez tout de suite.
Ah, c'est fou ça.
Après l'émission, je te demanderai Sylvain, ce que c'est le manga des Misérables. Est-ce que c'est genre Cosette qui s'entraîne avec Jean Valjean Sensei ou un truc comme ça?
Alors, tu vas sur mon compte Instagram, je l'ai pris en photo il y a deux jours.
C'est
la vraie histoire des Misérables, mais ils ont un peu le look Ken le survivant, tu vois.
Jean Valjean Kun.
Jean Valjean Senpai.
Mais c'est quand même en soi, on comprend parce que. C'est vrai que, comme tu dis, la fanfiction n'a pas attendu Internet. Par contre, Internet a bien propulsé la fanfiction en avant.
Oui.
On se retrouve avec des forums, comme tu dis, avec plus d'auteurs que de lecteurs, mais tout le monde s'éclate, quoi, en fait.
Déjà, je pense que si demain, vous voulez écrire, vous allez vous dire, avant de le présenter à quelqu'un que vous connaissez, j'écris pas très bien, je fais des fautes, c'est nul.
C'est pas grave.
Mais effectivement, si vous avez un pseudo, ben, personne ne vous jugera.
Oui.
Et surtout quand vous allez sur Facebook et que vous voyez les gens qui écrivent très mal, vous dites bon, ouais, j'écris mieux qu'eux. Donc voilà, ça favorise la publication.
Alors, première question à vous autres, les trois qui avez écouté Fibre. Déjà, qu'est-ce que vous pensez juste du processus de fanfiction, du fait de s'éclater à écrire des choses et de mélanger des univers et mettre beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup de fantasmes sexuels, c'est quand même assez lié en général.
Enfin, moi, je trouve ça cool.
Daz. Oh, Daz, comment ça?
Non, mais c'est chouette.
Il a pas dit mongolien.
Non, c'est chouette. Alors après, effectivement, faut voir comment les mecs maîtrisent le passé simple.
le passé simple, il a beaucoup de succès. Hein, mais
c'est une catastrophe, mais c'est ça qui rend le truc croustillant. Non, je trouve ça cool, mais finalement, c'est l'extension de ce que tu fais quand t'es gamin, c'est-à-dire que tu réinventes des histoires, tu fais des crossovers improbables avec des G.I. Joe et des Marvel et des machins, et puis tu t'inventes des histoires. Là, la seule différence, c'est que les mecs, bah, ils les publient. Donc ça, c'est le média internet qui permet ça. Et c'est pour ça que moi, la fanfic, je rapproche ça un peu de ce qui s'est passé avec la musique quand les ordinateurs ont été démocratisés.
Donc t'avais les home studios, puis maintenant t'as les home publishing, quoi. En gros, tu écris tes trucs.
Tout le monde peut produire du jour au lendemain, donc il y a plus de barrières. Après, de toute façon, il y a quand même un filtre qui se fera sur la qualité intrinsèque du truc, quoi. Je doute que Legolas et Scooby-Doo, même si franchement,
moi j'ai très envie de le lire.
Alors, par contre, la question que je pose, c'est tu parlais donc de fanfic et d'univers. Que quid de l'univers étendu, par exemple, est-ce que les trucs qu'on trouve autour de Star Wars, qui a plus d'histoire en fait en dehors des films que dans les films, finalement, avec un univers étendu super étendu, est-ce que ça a commencé comme des fanfics ou est-ce que c'est des mecs qui réellement, enfin tu vois,
c'est un peu compliqué.
Ah.
Mais Star Wars, pour nos auditeurs, dispose d'un univers dit canonique, c'est-à-dire les films, et un univers étendu qui est les produits officiels de Lucasfilm. C'est-à-dire par exemple les romans, mais depuis que ça a été racheté par Disney, l'univers étendu n'est plus canonique. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît plus l'univers étendu comme réel.
Donc en fait c'était un enfant reconnu, t'es devenu un bâtard.
Et il faut voir aussi qu'il y a des choses dans l'univers étendu, donc qui étaient canoniques autrefois, qui ne sont pas compatibles avec la logique de l'univers. Par exemple, il y a un comics Lucasfilm dans lequel il y a un robot, un R2-D2 qui a un pouvoir de Jedi. Alors c'est pas possible parce qu'il faut être vivant, bref, peu importe. Et donc c'est quelque chose qui est étendu mais qui est pas canonique à double titre, puisqu'il est pas cohérent et il est pas du tout de
Ouais, donc là on est reparti sur un truc total, on est dans la méta.
La question de base, c'est est-ce qu'on sait si finalement parce que moi je lis justement des trucs de l'univers étendu de Star Wars, est-ce que par exemple le mec qui a écrit Republic Commandos à un moment donné, c'était un fan lambda, c'est juste que lui il a proposé son script et Lucas l'a pris.
Est-ce que c'est Timothy Zahn?
Je sais plus.
Bon, le grand écrivain.
Je vais faire un jeu de mots, mais bon, bref.
Le grand écrivain de l'univers étendu Star Wars, c'est Timothy Zahn. Mais il a écrit les choses dans les années 90 où c'était la période X-Files, complot, des choses particulières qui aujourd'hui sont plus trop à la mode. Donc, c'est pour ça qu'on balaye un peu, quoi.
Mélissa, sur tout ce phénomène de fanfiction, pour revenir un peu, pour recentrer sur le débat, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, effectivement, il y a un jugement qualitatif qui se fait, mais il y a aussi un jugement, on va dire, plus global sur le fait que tout le monde écrit, comme le disait Fibre et comme l'approfondissait un peu Daz. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi?
Bah, quand Daz disait que la qualité est sélectionnée automatiquement, en fait, non, parce qu'il y avait cette nana là qui a vendu des millions d'exemplaires d'un truc qui s'appelle After.
Merci pour ce moment.
Ça, c'est notre fanfiction. Merci pour ce moment. C'est...
Et du coup,
After, c'était quoi?
C'était une américaine qui a fait une fanfic de je sais plus quel truc hyper connu. Je suis hyper précise sur mon coup là.
C'est journalisme, ça.
Non, mais c'était un gros best-seller. D'accord. Tout le monde en a parlé. Été édité en France et tout, et en fait c'est de la merde.
Non, mais en termes littéraires tu parles, ou je parle juste de savoir utiliser le passé simple, moi je m'arrête là, je veux dire.
Non, mais
en termes littéraires, à la base
de la fanfic, est-ce que le fait que tout le monde écrive,
c'est génial que t'as imaginé des trucs et tout, enfin c'est bon pour la créativité, et je préfère ça que des kikou MDR, je suis trop fan de Justin Bieber. Je préfère à la limite le truc qu'il a lu, qui était certes nul, que juste je suis fan de Justin Bieber.
Je trouve ça sincère, une sorte de fantasme adolescent autour de Justin Bieber. Bon, bref. Sylvain.
Je suis pour l'encourager et je suis même pour l'encadrer. Je veux créer des auxiliaires de fanfic comme il y a des auxiliaires de puériculture ou des auxiliaires de vie.
Tu veux dire une sorte d'académia de la fanfic, tu aurais dans le métro comme ça?
Voilà, c'est-à-dire des gens qui viennent sur les forums et qui disent et qui donnent et qui critiquent les fanfics en disant c'est cool, c'est pas mal. Par contre, t'as fait une faute, voilà, la prochaine fois.
Ça, c'est pas cool.
Par contre, t'as fait une faute.
Juste une faute, voilà, bon, voilà. Je veux dire.
C'est pas cool parce que tu normalises et l'intérêt, c'est justement de pas normaliser le truc, que ça reste complètement une niche, tu vois.
Pour reprendre cette histoire de normaliser, justement, alors on parle des fanfics, on parle des crossovers, donc où les gens mélangent. J'ai l'impression qu'à chaque fois on gagne un degré un peu de dans le délire, c'est de plus en plus pas n'importe quoi, mais de plus en plus un peu fou dans les fantasmes. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Vous trouvez à un moment que ça perd encore plus de sa crédibilité quand on va commencer effectivement à mélanger des univers qui n'ont rien à voir? Je crois aussi qu'il y a tout un système dans les fanfics qui est basé sur les fans, donc il y a des gens qui font des fanfics spéciales pour mettre en couple des personnages de deux sagas, deux univers différents qui iraient trop bien ensemble, genre Fox Mulder et Princesse Leia, par exemple, ils écrivent des fanfics et il y a des teams entières qui se créent autour de choses comme ça. Est-ce que pour vous, du peu que vous avez découvert de la fanfiction, en tout cas, parce que vous, à part Fibre, vous n'êtes pas amateur de fanfiction.
J'ai lu le truc de Justin Bieber.
Ah, moi aussi. Mais est-ce que pour vous, il y a des choses qui vous dites, ah, ça, je trouve ça intéressant, ou est-ce que vous dites, non, là, c'est du grand n'importe quoi?
J'irai trois mots, l'âme, pour ça. Legolas et Scooby-Doo. Voilà.
Ah, ça, Fibre, il te l'a bien vendu, ça.
Ah, mais il est mortel. Sherlock Holmes et les Pokémon, j'étais bon, ok, mais Legolas et Scooby-Doo, ça me vend du rêve.
Legolas.
et là, t'as Legolas qui surf sur Scooby-Doo, tu vois, enfin, ça serait magnifique.
Non, mais elle est rouge ce matin.
Fibre.
Si Daz faisait une fanfic.
Oui.
Il ferait une fanfic sur Elite et les baskets, par exemple.
D'accord.
Et là, déjà, je crois que ça t'intéresse un peu.
Elite,
non, même pas.
Le commandeur Daz portait des Nike Air Jordan.
En fait,
smuggler des Nike Air Jordan.
Voilà, en fait, le crossover, quand on voit des crossovers improbables, c'est souvent des gens qui disent bah, moi, j'aime Sherlock Holmes et les Pokémon et je parle des deux.
Alors, Fibre, aussi, pour revenir rapidement sur ton expérience personnelle, pourquoi tu as fait de la fanfic? Est-ce que c'est aussi un besoin, comme tu dis, boulimique d'exprimer ta créativité? Ou est-ce qu'il y avait des envies de. Il y avait une communauté qui t'a motivé et t'as voulu.
Pour pécho.
T'as voulu apporter ta touche à toi? Ou effectivement, est-ce que c'était pour pécho des.
Alors,
non, comme on dit, les fanfictionnasses.
La fanfic jeune, quand j'étais jeune, c'était vraiment.
Jeune, c'est quel âge?
J'ose pas le dire parce que j'étais vieux. Mais quand j'ai commencé à écrire de la fanfic, c'était vraiment parce que l'univers, j'adorais l'univers.
Est-ce que tu peux donner des indices?
Non, je ne peux pas.
Allez.
Par contre.
De toute façon, on va te griller, on va trouver une fanfic qui est super bien écrite sans aucune faute d'orthographe. On va dire c'est Fibre.
Je suis sûr qu'il force les faux passés simples.
Non. Mais il y a
des fanfics. Qu'est-ce qui t'a motivé? Excuse-moi, on revient
Et par exemple, très récemment, parce que j'ai des pseudos, notamment sur le forum de jeuxvideo.com, j'ai eu une bonne idée d'histoire. D'accord. Mais si j'écris l'histoire comme ça, sur mon pseudo, personne ne va la lire. Et donc j'ai juste rajouté un élément de l'univers d'Harry Potter pour que les gens. La lise un peu. Donc c'était un petit peu un argument marketing. Ça n'a pas très bien marché. Mais voilà, c'est parce que dans le fond, les fanfics ne sont pas très lus. Voilà.
D'accord. Oui, comme tu dis, en fait, c'est censé plus être un délire d'auteur plus que quelque chose dont les lecteurs raffolent en masse, en fait.
Voilà. Et puis quand on commence à écrire bien, ben on n'est plus dans le truc, quoi. Voilà.
Si vous deviez faire, vous, chers collègues de Fibre, une fanfiction, qu'est-ce que ce serait? Alors sincèrement, sans tomber dans le second degré, des univers qui vous passionnent, quelque chose que vous aurez voulu réécrire ou un fantasme quelque part.
Je me suis posé la question et je suis très triste en fait parce que je consomme tellement les œuvres telles qu'elles sont pensées que j'ai même pas l'idée d'aller les hacker pour rajouter des trucs externes.
Mais pour revenir à Elite, les gens disaient c'est génial parce que s'il y a des modes qui sortent, on pourra confronter Star Wars et Star Trek.
Oui,
et
mais ça reste Star Galactica. Mais tu vois, c'est pour moi une. Enfin.
Ah, pour toi, il faut que ça sorte de l'univers.
Bah ouais, sinon c'est plus un crossover qu'une vraie. Oui. Tu vois, donc.
Donc toi, t'as pas d'idée spécifique.
Non, j'ai pas de.
Mais tu lis en ce moment un livre sur Elite.
J'ai fini de le lire, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, mais pour moi, justement, l'univers se tient parfaitement, donc il n'y a même pas besoin de rajouter du BSG ou du Star Wars dedans. Quoi.
Mélissa, est-ce qu'il y a un petit mélange, ou pas forcément mélange, mais est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais bien réécrire?
Architecture et journalisme.
Architecture et journalisme.
Non, je ferais bien une fanfic autour d'un homme politique. Voilà. Je ne sais pas encore trop lequel, mais ça pourrait aller très loin. Genre Bruno Le Maire ou Christian Estrosi.
Alors, ça serait pas un roman? Pourquoi fanfic, en fait? Tu vois,
bah, tu parles d'un personnage.
Non, justement, oui.
D'une personnalité, tu vois. La meuf, j'ai recherché sur internet, la meuf qui a écrit After, elle a écrit autour du groupe One Direction.
D'accord, donc c'était autour du groupe One Direction à la base.
Ouais.
Ça, c'est quand même intéressant. Du
ça
coup.
A fait un carton, forcément.
Mais c'est intéressant que tu recrées des univers en
je
fait
crois que
issus de.
Sa fanfic a été rachetée 600 000 $, quelque chose comme ça. C'était
pas
un truc énorme.
De toute façon, la fanfic de Fifty Shades of Grey, avant que ça devienne un succès au cinéma, même en livre, c'était déjà un énorme succès sur internet. Qui les ont obligés à changer les noms. Pour changer de Twilight. Sylvain, pour finir avec toi, si tu avais une fanfiction.
Alors, moi je suis un petit peu comme Daz. En fait, ça m'embête d'écrire quelque chose sur un univers que j'aime parce que j'estime que il n'y a qu'une seule personne qui doit être garante de cet univers. Et surtout, si c'est moi qui l'écris, en plus je sais ce qui va se passer, j'aurais pas la surprise.
Ah,
donc, tu vois. Aussi,
ouais. Donc toi, tu veux toujours te poser en spectateur et t'as l'impression que tu te gâcherais ton univers si tu.
Mais si je devais j'aimerais bien écrire une fanfic sur Elon Musk.
Ah ouais?
Mais en mode, le mec, en fait, c'est une pourriture, tu sais.
Tu veux dire Elon Musk qui rachète Dassault?
Voilà, c'est ça. Et qui rachète NetVibes, du coup.
Et après, il y aurait du sexe ou pas dedans?
Ouais, il y aurait du sexe avec peut-être avec Marissa Meyer.
Ah, allez, d'accord. Allez, Elon Musk et Marissa Meyer chez Dassault. C'est parti. F-A-Q. Oh, c'est dur de revenir. On est après de partir si loin dans la réalité virtuelle, les fanfictions et tout, là, de revenir des. des FAQ. Mais bon, on a besoin à un moment de se poser des questions importantes. Et une question que j'aime beaucoup, de je suis pas joie sur Twitter, hashtag, arrobas je suis pas joie, qui nous demande qu'est-ce qui, selon vous, a révolutionné la musique sur Internet. Ah, est-ce que c'est le format MP3, est-ce que c'est Napster, est-ce que c'est le peer-to-peer, est-ce que c'est le streaming, est-ce que c'est un petit truc, est-ce que c'est, comme disait Das, plutôt le home studio, SoundCloud, la diffusion pour tous. Fibre, levez la main immédiatement, telle Fibre.
Pour moi, la révolution sur Internet, hein, pas sur le format numérique.
Qu'est-ce qui a révolutionné la musique sur Internet?
C'est les sites de streaming comme Spotify, Deezer, ou pour moi, j'utilise Grooveshark qui est gratuit.
Ouais, très bien. Donc toi, les sites de streaming.
Ah, c'est toute la journée, c'est la première chose que j'allume et c'est la dernière chose que j'éteins. Voilà.
Mais très bien.
On parle en termes de création ou de la consommation?
La musique en général. Ça peut être de la création, ça peut être des apps, ça peut être des choses fofolles.
Non, bah pour moi, c'est YouTube.
C'est YouTube.
Premier site de diffusion de musique au monde, quoi.
C'est vrai. Ouais. Premier site de diffusion de musique après 3h du matin en soirée, je dirais, au monde. Non? Attends, j'ai une super chanson. Ah merde.
Elle est pas sur Spotify.
C'est le pré-roll qui crache dans les enceintes. YouTube, mais c'est vrai. YouTube est aujourd'hui le premier diffuseur de musique ce qui est plutôt rigolo. Mélissa, Sylvain Mélissa.
Ouais, moi, ce qui a révolutionné la musique sur Internet, c'est l'immobilisme de l'industrie musicale traditionnelle.
Oh là là, c'est beau. C'est un homme qui n'a pas peur de ses opinions. C'est un homme qui se tient droit.
Je suis là pour donner mon avis. Bon,
pavé, marbre.
Mais c'est vrai. Mais c'est vrai que si les éditeurs et les majors de musique avaient été plus réactifs, peut-être qu'on n'aurait pas la musique qu'on a aujourd'hui. Ouais. Dans tous les sens. Mélissa, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a spécialement marqué dans ta manière de consommer ou de créer ou d'apprivoiser la musique sur Internet?
Non, YouTube, ouais, parce que du coup, je l'utilise vraiment comme Spotify maintenant.
D'accord.
Quand je me fais des vraies playlists. Par contre, je suis en train de voir un truc que j'aime pas du tout, c'est Rihanna qui a fait Vendredi, qui a mis son dernier titre sur une nouvelle appli, genre Snapchat, mais une autre.
Ah oui.
Ah oui, l'appli de qui d'ailleurs?
Je sais plus quelle appli, mais.
C'est l'appli de Jay-Z.
Ah oui.
Ah bah tiens.
Bizarrement.
Ça alors. Comme
et ça non. Quoi,
alors du coup, je donne une toute petite question bonus parce que c'est intéressant ce que tu soulèves, Mélissa.
Trop de marketing, quoi.
Ouais. Est-ce que Internet a pas foutu le bordel sur la manière dont les artistes aujourd'hui doivent vendre leur musique à tous les sens du terme?
Si.
Pour Daz. Voilà, c'est simple, mais c'est bien sorti.
Ça fout le bordel, quoi.
Mais ça force les artistes à sortir, en fait.
Ouais.
Voilà. Et à tourner, à faire des scènes.
Donc si pour Daz, si pour Mélissa, parce que c'est elle qui en a parlé en premier, évidemment, et Fibre.
C'était dur avant, c'est encore plus dur maintenant parce que, pour reprendre l'exemple que j'ai cité des sites de streaming, personne ne gagne de l'argent avec. Enfin, les sites gagnent peut-être de l'argent, mais en tout cas,
oui,
les artistes, il paraît qu'ils sont.
Ouais, fait, ouais.
Ils gagnent très très peu.
Ouais, ouais.
Toi, Sylvain?
Ouais, je veux dire. Non, ils font ce qu'ils veulent.
Bon, ça veut dire que Sylvain n'avait rien à dire. Allez, on attaque tout de suite la troisième chronique avec Mélissa.
Sujet numéro 3.
La fachosphère. Qui est-elle? Quels sont ses réseaux?
Mélissa, alors on est parti loin et tout, mais toi tu vas nous ramener en France, dans la bonne France française.
Ouais, dans des endroits un peu sales.
Exactement, nous enregistrons ce dimanche soir, au soir du deuxième tour des élections départementales,
oui.
Ou cantonales, ou locales.
Départementales.
Et en tant que journaliste du journalisme, tu as couvert ces élections avant de venir nous rejoindre.
Tout à fait, avec tous les résultats que ça. Quand j'ai si tard.
Et c'était, donc avant même cette soirée, on avait parlé d'un sujet qui te tenait à cœur, qui était la fachosphère.
Tout c'est
un terme fort quand même.
On discutait en fait avec Fibre, tout a commencé quand on discutait en se disant le FN n'existe pas sur Internet. Et là j'ai fait...
Fibre disait ça.
C'est faux, forcément. Mais oui, en fait je suis allée fureter vers des contrées que je n'aime pas trop voir sur Internet et que finalement je ne vois pas assez. Parce qu'on a nos petites habitudes sur Internet, nos sites préférés, nos réseaux sociaux chéris. On check Twitter, paf, 5 minutes, 3 blagues, 2 articles. On check Facebook, même chose. Un détour sur Instagram, là, une petite photo de la MUA, elle est belle, elle est magnifique, on va liker. Voilà, on n'est pas bien au chaud, là, tous ensemble.
Bah ouais.
Et ben non. Chez 404, on a l'amour du risque. Donc, il a fallu que j'aille plus loin que mes petits réseaux sociaux chéris et mes sites internet préférés. Et donc, je suis allée explorer l'internet du FN parce que, donc, comme Fibre Tigre le dit, on le voit pas. Et donc, il faut aller le voir, il faut aller le découvrir. Je voulais voir à quoi ça ressemblait, sans que Facebook me filtre tout ou que Twitter me laisse que ce que mes abonnés me montrent. Donc j'ai voulu d'abord savoir ce qui se passait quand je tapais FN dans Google. Mmh. Donc on tombe sur le site de du parti de Marine Le Pen. Ou,
beau travail de SEO.
Voilà.
C'est
ou sur, attention, FN.fr qui a été, ces deux derniers jours, en fait, renvoyé vers le site de l'UMP ou le site du PS.
Bon, c'est des bon gros, travail de SEO aussi, il faut le dire.
C'est des gros connards d'agences de référencement, donc c'était un peu le Far West cette période d'élection. Et puis après, il y a les gros sites genre Novo Press, F de Souche, qu'on connaît depuis hyper longtemps, donc, qui étaient un peu les ancêtres de l'existence de l'extrême droite sur Internet. Mm-hmm. Mais moi, ce que je voulais voir, c'est les gens.
D'accord,
qu'est-ce qu'ils disaient, les vrais gens qui aiment l'extrême droite sur Internet? Qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Donc, j'ai tapé FN dans Twitter. J'ai esquivé tous les gens qui sont reliés au parti. Et donc là, bon, voilà, le premier tweet sur lequel je tombe, c'est: plutôt que de payer des hôtels aux clandestins, on devrait soutenir les agriculteurs de France. Hashtag départemental 2015. Ok.
Le bon sens en action.
Jusque-là, tout allait bien. Donc, un compte qui était le at Paris 18, mais qui se présentait comme départemental 2015. C'est-à-dire que les gens veulent quand même hacker l'élection, quoi.
Ah oui.
C'est un pauvre militant qui était même pas, genre, relié au parti officiellement, mais qui hackait le truc. Après, je vais plus loin, et là, on tombe sur Arthur Labarre qui tweet: on s'en doutait, le copilote était Muse. Saloperie de Muse, vite, Marine. Donc, Muse, qui est écrit comme Buzz. Ça veut dire musulman.
Oui, c'est, donc c'est le mec disait que c'est pas le groupe Muse, je pense, là.
Voilà, non.
C'est une autre chose. Hein.
le mec disait que le copilote de la 320 était un musulman, donc voilà, c'est censé expliquer les choses. Hein.
D'accord. Bravo. Là, on revient aux théories complotistes du mois dernier. Là.
Il ne l'était pas, quand même, précisons pour la clarté.
Merci, Fibre. Donc là, je continue, hein, fidèle à la sérendipité si chère à Sylvain. Je tombe sur un retweet de at Malempire qui dit: voilà la salope hongroise qui nous refait le coup de 2007. Pour l'instant, il lèche le cul à Juppé. Et en dessous, il y a une photo de Sarkozy que je peux pas vous montrer, mais un super joli photomontage avec plein de trucs de Photoshop.
La salope hongroise, c'est Sarkozy?
Bah oui.
C'est Sarkozy.
Qui d'autre?
D'accord.
Oui, retweet encore: je suis atterré de voir cette dame chercher à manger dans cette poubelle alors que des racailles reçoivent des allocs, avec une photo d'une vieille dame qui cherche dans une poubelle. Et en fait, cette photo d'une vieille dame dans une poubelle, on la trouve partout. Et en fait, on se rend compte que c'est pas tant le bordel que ça, que les mecs relaient toujours la même chose.
D'accord, il y a un vrai.
En fait, il y a des têtes de pont,
ouais,
qui sont des gens plus ou moins identifiés au FN ou à d'autres partis de l'extrême droite. Et après, t'as tous les militants qui reprennent comme des moutons ces trucs-là, ou alors qui balancent des insultes ou des trucs purement racistes. Donc après, tu tombes sur des comptes, tu vas de compte en compte. Et donc, ça faisait 2 heures que je lisais des trucs comme ça quand je lis le énième tweet d'un mec qui dit: après les menus halal, les écolos veulent des menus végétariens dans les cantines. Maintenant, il ne faut plus des élections, il faut épuration.
Ah oui.
Ouh. Il faut épuration. Hein. Tu sais, au début, je me dis
c'est
bon.
C'est okay. Un peu comme la fanfic aussi. La grammaire, elle est un peu bon. Hein.
Et là, je me dis bon, faut que je réponde là, faut que je fasse.
Ah, donc là, tu craques, tu.
Voilà, je me dis putain, Mélissa, tu fais.
Normalement,
quand
t'es documentariste, tu n'interviens pas sur.
C'est la prime directive là.
Donc, non, mais je voulais voir comment il réagissait, quoi.
Donc là,
je dis: vous êtes un malade. Bah, épuration, je suis désolé. Le mec, il est pro-épuration, mais à un moment, faut dire les choses. Lui, il me répond: casse-toi, bougnoule. Alors, je sais pas s'il a essayé de faire un jeu de mots sur mon nom de famille, qui est Benoît, précisons-le. Je réponds: vous savez être autre chose que raciste et violent. Et là, il m'a jamais répondu, j'étais hyper déçue. Voilà. Au fond, je m'attendais pas à autre chose qu'une insulte. Bon, plus tard, je lisais encore sur son compte Twitter: féminisme, genre, sans papier, pédéraste, les nouveaux segments électoraux de la gauche bobo. Enfin voilà, des gens qui croient faire de l'analyse politique.
Ça, c'est la
ligne
du point, ça, non?
Ça fait très aussi reportage M6. Ouais.
C'est parce que j'ai pris une petite voix en faisant des imitations. Là, je finis par tomber sur une page Facebook: marre de se faire traiter de facho quand on aime la France. Alors, sur cette page, donc, où les gens croient qu'ils ne sont pas fachos, il y a quand même écrit: les racistes sont ceux qui arrivent dans un pays et veulent remplacer la population existante, qui n'accepte pas les lois et coutumes locales et veulent imposer les leurs. En d'autres termes, on appelle ça aussi une invasion.
Épuration, invasion,
immigration, invasion, c'est la même chose. Ouais. Bref. Au bout de 3 heures, j'étais genre, mais je comprends pas. En fait, mon cerveau n'arrivait vraiment pas à comprendre leur approche, à comprendre leur cerveau, quoi. Autant il y a des gens FN qui essayent d'être un peu lissés, parce que clairement, on sent que le FN a dit faut arrêter les bien conneries sûr. Et passer pour des gros cons. Autant je suis tombée la plupart du temps sur des gens qui avaient des photos anonymes ou alors des photos d'agence avec des pseudos incompréhensibles. Ça fait vraiment penser à l'internet, le vieil internet anonyme où tout le monde se cache. C'est un peu ça que j'ai retenu de cette plongée dans.
Donc tu pensais avoir quelque chose qui était un peu maîtrisé, mais en fait c'était très brut finalement.
Bah, en fait, il y a des têtes de pont organisées, Novo Press, F de Souche, tout ça, et derrière il y a juste tous les petits moutons qui retweetent tous les photomontages. Mais vraiment, tu vois des retweets, mais des mêmes trucs sur différents comptes, et tu te dis, mais en fait, juste ils sont là pour faire du chiffre et faire de la diffusion, quoi. C'est des bonnes petites fourmis, quoi. Mmh. Et donc, en fait, on se rend compte finalement que même derrière ces petits militants d'extrême droite, en cherchant bien, les candidats aussi, quand ils sont sur Facebook, en fait, ils arrivent à dire des trucs quand même aussi what the fuck que les mecs qui se lâchent aussi sur Twitter en public. Et en fait, il y a un site qui s'appelle L'Entente qui s'est amusé à référencer, enfin amusé, je sais pas si c'était vraiment marrant, parce que pour moi c'était vraiment pas marrant.
Il s'est amusé comme toi, tu t'es amusé en fait.
C'est ça, à référencer les trucs. Et donc, ils ont quand même trouvé une centaine de candidats qui disaient des trucs ou racistes, ou antisémites, ou homophobes, ou islamophobes. Par exemple, il y en a un en Bretagne qui tweetait, enfin qui Facebookait, cherchait l'erreur, un black armé d'une machette qui court après deux autres blacks dans les rues de Laval à 7h30. Trois blagues debout à 7h30. Le mec était au premier tour des départementales.
C'est beau ça. Le problème c'est que Daz, il a trouvé la blague pas mal.
Ah non, mais le mec est fou, c'est du suicide de faire des trucs
le
comme
ça. Le mec
était
candidat au départemental au premier tour. Heureusement, il a été éliminé, hein, faut le savoir.
Il a été épuré.
Voilà, donc en fait, je me suis rendu compte que la structure était vraiment en maillage. Et en fait, par rapport à 2008 ou 2009, en fait, quand le FN a vraiment, et l'extrême droite a vraiment envahi Internet en sachant que c'était le meilleur instrument pour leur politique, en fait, ils ont juste amené plus de gens. Mais la structure en maillage reste la même, c'est-à-dire qu'il y a des têtes de pont et que derrière, il y a des milliers de gens qui restent. Mais donc, je voulais finir cette plongée dans le FN en me disant, mais qu'est-ce qui se dit sur le FN, sur jeuxvideo.com, qui est un peu l'Internet, l'Internet français. Et donc, il y avait un thread départemental avec un petit sondage au début du thread départemental qui était, parmi les trois partis arrivés en tête, quel est votre favori pour ce second tour? Et alors là, les trolls ont hyper bien fait leur boulot parce que le Front National arrive en tête avec 54%. Hein, quand même. Ouais, donc, c'est rien à voir avec les sondages français, c'est la vie sur les jeuxvideo.com. Mais en fait, on se rend compte en lisant les commentaires, donc il y avait genre, je sais plus, 1500 commentaires sur le thread, que c'était hyper, hyper modéré et qu'en fait, il y avait plutôt, j'étais hyper étonné par les analyses politiques, mais il y avait quand même un petit com qui disait, faut pas oublier que le FN a été fondé par d'anciens collabos et ça se revendique patriote alors que ça suce du chibre Bosch. Avec un petit smiley. J'ai envie de vous laisser avec ça.
Ah, un petit message de haine anti-FN, comme ça on a fait la boucle.
Respect 15-18.
Oh là là, ouais, respect 15-18, puis respect Mélissa parce que effectivement ça doit être une. Si on est anti-racisme, anti-sectarisme, anti-haine, etc., effectivement, ça doit être une traversée un peu pénible quand même.
C'était vraiment très dur, mais c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point, en fait, on est bien au chaud dans nos cercles grâce aux algorithmes des réseaux et des sites qu'on connaît, qui sont plutôt. Enfin, en fait, nos habitudes sur Internet disent aussi nos opinions politiques.
Elles te disent que tu veux l'entendre aussi.
Et on croit qu'on est ouvert à tout, mais on va sur 4chan pour faire ouh, je suis allé sur 4chan, mais en fait, on ne va pas tellement voir dans les endroits qu'on n'a pas trop envie de voir.
Alors, Daz. Tu trouves ça dommage, c'est-à-dire ?
Je trouve ça dommage que les algos t'empêchent en fait d'avoir vraiment des gros cons dans ta timeline ou.
Du coup, il y a des.
Tu vois, enfin moi je. Ça m'emmerde, je suis persuadé qu'il y a des gros racistes dans mes contacts Facebook et du coup je les vois jamais parce que justement on n'interagit pas, etc. Et ça serait bien que de temps en temps, tu vois, il y a des. Genre les All-Stars, tu vois, les All-Stars des connards qui sont sélectionnés, tu
un
vois.
Petit, un petit Reader Digest,
ouais, voilà,
de la haine.
Cette semaine sur le réseau.
Ils ont dérapé.
Voilà. Non, c'est même plus du dérapage, là, les mecs ils driftent depuis super longtemps, je veux dire.
Non, mais c'est pas anodin et c'est.
Déjà, Fib, juste avant, je te coupe un peu, je voudrais savoir.
Et tu es raciste, Fib.
Du coup, de ce que tu penses maintenant de cette plongée de Mélissa dans l'FN, est-ce que. Parce qu'il y avait cette discussion où tu disais effectivement le FN, les extrémistes sur Internet n'existent pas trop ou moins. Est-ce que du coup, ça a un peu changé ton avis?
Alors, la chronique de Mélissa est très intéressante. Mm-hmm. Elle répond tout à fait à ce dont
c'est
on parlait.
Une validation.
Mais il faut voir le contexte de notre discussion qui était le suivant. Sur Twitter, comme on disait Twitter en général, ça parle pas, il y a pas beaucoup de représentation de l'UFN. Alors, on trouve des tweets.
C'est ton avis du coup.
Non, mais il y en a numériquement, il y en a très peu. C'est-à-dire que le FN ce soir départemental, parce qu'on est dimanche soir, c'est 30% de la France. Mm-hmm. Est-ce que 30% des tweets sont FN? Non, ils sont majoritairement de gauche et ils sont même fond de gauche, tu vois.
C'est 30% des votants, c'est pas 30% de la France.
Fibre pense que les réseaux sociaux sont encore plutôt de gauche ou plutôt anti-FN. Mais ça pense que du coup, nous, on a un prisme qui nous coupe de toute une frange.
Voilà, alors je
ne
sais pas si c'est une façon d'agir sur Twitter. Et c'est d'autant plus problématique, à mon sens, mais je vais peut-être dire n'importe quoi. Parce que iTélé et BFM, ce sont des gens qui aujourd'hui utilisent Twitter comme source. C'est-à-dire qu'ils vont, ils disent, ils font des nuages de mots, ils font des émissions spécialisées et ils tirent leurs conclusions en faisant un pseudo-sondage sur Twitter.
Sur Twitter, on peut raconter ce qu'on veut, enfin, voilà. On peut faire dire ce qu'on veut.
Et je trouve qu'il y a une telle différence entre le FN dans la réalité concrète de la France et le FN tel qu'il est perçu sur les réseaux sociaux spécifiquement. Je considère pas F de Souche comme un site réseau social. Je ne suis pas du tout d'obédience FN. Mais je considère que le site F de Souche est quand même très bien mené. C'est-à-dire, j'ai,
ah oui, bien sûr, mais
j'ai le respect
c'est
de les.
Ils
gèrent vraiment leurs choses.
Tout comme le FN, ce que disait Mélissa, peut-être qu'on en parlera avec Sylvain après, mais d'un point de vue organisation, community management, discipline, viralité, retweet et diffusion de tous les lotoshops et tout, les partis extrémistes sont quand même extrêmement performants.
Voilà, discipline, ya.
Oh, quel beau. Ah là là.
Non, mais en fait, comme tous les autres partis, non.
Cet accent.
Comme tous les autres militants de tous les autres partis.
Alors, Sylvain, du coup, qu'est-ce que ton avis,
c'est qu'ils sont pas de sport, cette pratique d'avoir des têtes de pont qui vont créer du contenu retweeté par les militants, c'est pareil pour le PS, c'est pareil pour le MP, c'est pareil partout, non?
Ouais, mais là, il y avait. Vas-y.
Non, bien sûr, mais je disais juste, Sylvain, toi, tu les trouves pas plus disciplinés ou plus efficaces?
Mais déjà, attends, excuse-moi, juste sur un truc. F2 Souche et PS.com, je sais pas quel est leur nom, il y a deux approches
mais
différentes,
F2 Souche, c'est pas
le nom.
Politique, hein.
Oui, justement, c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont malins. C'est pour ça que c'est super puissant.
Je suis les pas mecs, sûr que tous les mecs de F2 Souche soient pro-FN, par contre. Je pense qu'ils sont même plus hardcore que ça.
Ouais, peu importe.
Pour eux, les mecs du FN, c'est des couilles molles.
Ouais,
non, mais je pense, hein, sincèrement.
Non, mais peu importe, mais le fait déjà qu'ils se présentent pas comme le FN, mais comme un espèce d'impresario du FN.
Mais non, justement.
C'est ça, tellement puissant.
Mais c'est faux. F2 Souche, c'est pas le FN. F2 Souche,
c'est
l'extrême droite. Et le FN, c'est pas l'extrême droite. Le FN,
c'est
un parti.
Finalement, ils ont mis assez longtemps à arriver sur les réseaux et sur Internet, en fait. C'est la fachosphère qui est vraiment arrivée massivement. Et le FN, ils sont venus voyant l'importance et surtout l'impact du truc. Ils sont allés en se disant, bon, faudrait quand même qu'on y aille. Ils sont allés finalement assez tard.
Donc pour toi, la fachosphère, elle est arrivée
avant que
le FN arrive. Mm. Donc quand on parle de fachosphère, on parle de F2 Souche qui a fait parler d'eux depuis quelques années maintenant.
En fait, tous les partis hardcore d'extrême droite, pas lissés comme le FN, étaient beaucoup plus présents via les militants, via des gens qui ont vraiment, en fait, à la différence des autres partis, tu sens qu'il y a des mecs qui sont là juste pour déverser leur haine et dire leur truc et dire ce qu'ils pensent parce qu'ils sentent que c'est pas dit dans les médias et du coup ils veulent le dire plus qu'un mec socialiste où il va dire oui, je suis d'accord avec
François
Hollande.
Alors, du coup, j'ai une question à vous poser. Entre ce que pense Fibre, ce qu'a vu Mélissa et effectivement le côté minorité bruyante ou des choses comme ça, est-ce qu'aujourd'hui on peut essayer de quantifier ou de chiffrer ou de se dire que les réseaux sociaux sont une caisse de résonance plus ou moins, on va dire, réelle ou plus ou moins proportionnelle à ce qui se passe dans la vraie vie?
Moi, j'abonde dans le sens de Fibre. Ouais. Twitter n'est pas la France.
Oui.
Twitter, c'est Paris.
Twitter, c'est 13% de la population française déjà.
Mm-hmm.
Actif, j'en sais rien, sûrement beaucoup moins. Et c'est des urbains CSP+, en moyenne. Donc, c'est pas du tout la France des régions, c'est pas du tout la France de l'agriculture, c'est pas du tout la France de la diagonale du vide du Grand Est au Sud-Ouest. C'est pas ça, Twitter. Twitter, c'est comme le dit Daz, ouais, on peut le schématiser en disant que c'est Parisien, Île-de-France et les grandes villes de France. Quoi. Donc, non, c'est pas représentatif. On peut pas se faire une opinion de l'esprit politique français.
Est-ce que Facebook,
Twitter,
du coup, par exemple, plus généraliste? Parce que
Facebook, oui. Mélissa,
on
peut pas avoir
Mélissa est passée par Facebook, elle est sur Google, elle est sur des gros sites.
Facebook, tu as accès aux données publiques. Mm-hmm. Sauf si t'es ami avec toute la France, quoi.
D'accord. Ça se fait.
Mais ça pourrait être une technique, tu vois. Une agence.
Tu peux demander à Fibre, il va le faire, hein, il va contacter les gens par
un. Une agence d'études des réseaux sociaux pourrait se vanter de dire nous, on crée des comptes pour être amis avec tous les Français et ça nous permet de sortir de la table. Je vais le noter, ça.
donc là-dessus, vous pensez qu'on ne peut pas aujourd'hui. Vraiment, la fachosphère ne représente pas,
c'est pas encore,
de manière juste
efficace qu'un sondage d'opinion. Enfin, tu vois, ça peut pas être assez. L'échantillon est pas assez représentatif. Même s'il l'est de plus en plus, parce que vraiment sur Twitter, je tombais sur des comptes où clairement c'est pas nos petits milieux et c'est vraiment des militants qui habitent dans le fin fond du trou du cul de je sais pas où et qui justement sont trop contents d'être entendus sur Internet, quoi.
Donc il y a quand même pour toi, il y a un phénomène, il y a un retournement de situation.
Il y a une représentativité, mais qui est. Certes, comme le dit Sylvain, pas encore fini, quoi. C'est pas comme un sondage.
Juste une petite parenthèse, c'est que donc on sort de un mois de militantisme de part et d'autre pour les départementales. Il y a eu une attaque contre le FN qui a été faite sur le physique des gens, qui est absolument incroyable de bêtises.
J'ai loupé ça.
Ah ben, les gens prenaient les affiches des gens en disant ah regardez comme ils sont moches sur Twitter.
Ah oui, j'ai vu. J'ai l'impression que c'est un grand
classique à chaque
élection. Mais
c'est plus FN que le FN de faire ça. Oui. C'est-à-dire c'est des gens.
C'est plus bas du front que.
Ouais,
que les gens
ils sont encore plus fachos que les mecs qui dénoncent. C'est finalement c'est 30% de FN.
Ouais.
Je veux dire, peut-être effectivement les gens ils le sont sans le savoir, tu vois.
Oh là là.
Bah ouais. Bah ouais.
Christophe Barbier.
Bon, ok. On finira sur ce débat sur une dernière chose. Du coup, est-ce que cette plongée dans la fachosphère de Mélissa vous donne envie, Daz, là, on a un peu parlé au début aussi, de vous dire, à un moment, ça fait du bien aussi d'aller voir de manière objective ce qui se passe ailleurs, et effectivement, on se rend compte qu'on est dans un filtre qui défend beaucoup de choses lorsqu'on choisit qui on follow, qui sont nos amis, et qu'on a l'impression de voir une représentation complètement biaisée de la France. Est-ce que c'est nécessaire d'aller faire ces sortes de sorties scolaires?
Mais non, mais il faut simplement se répéter que les réseaux sociaux ne sont pas, ne représentent pas la France.
Non, mais tout. Ouais, même c'est important d'aller voir, moi, je pense. Moi dès que je peux, je follow des connards. Non mais c'est vrai. Hein.
Et après tu les unfollow.
Sur Facebook, je suis ami avec des genre des jeunesses FN,
ah ouais,
des trucs comme ça. Mais je les mets dans le cercle 3, c'est-à-dire que je peux les voir sans que puissent me voir. C'est des petits cercles que j'ai fait comme ça. Et j'ai aussi des mecs 6, pro, mais pro religieux, mais presque fanatiques chrétiens, des choses comme ça. J'aime bien moi avoir des petites créatures comme ça. C'est un peu mes Pokémon, tu vois.
Ouais, tu t'es.
Et ça me permet de me dire ce genre de choses existent, tu vois.
D'accord. Ah ben très bien. Et toi, Fibre, est-ce que t'essaies d'ouvrir les yeux régulièrement, de garder bien les pieds sur terre, ou est-ce que des fois tu te complais dans ce que tu as envie de lire sur les réseaux sociaux et de ce que tu as envie que les réseaux sociaux te poussent?
Moi j'ai des amis, alors entre guillemets, parce que j'ai pas vraiment d'amis, mais j'ai des amis FN, j'ai des amis ultra catho, ouais. Ultra. Ben, c'est des mecs qui ont une qualité humaine indépendante de leur opinion politique, mm-hmm. Donc. Voilà, je suis fondamentalement pour une liberté d'opinion et d'expression. Voilà, même si demain Daz il est F de souche à mort, bah il sera toujours Daz et je l'aimerai toujours autant. Donc voilà.
Ok, très bien.
C'est comme ça que ça se passe.
C'est beau. Bon, alors restez bien ouverts, c'est ça qu'on pourrait dire à nos auditeurs.
Stay frosty.
On vous fera un petit FF bien senti la semaine de la sortie du 404 avec des petits contes. Vous allez voir, vous allez pas regretter.
Bien sympa.
Allez, une fac.
FAQ.
Dernière FAQ de notre numéro de mars de 404. On en fait une petite rapide parce qu'on a déjà la réponse. Iris Olala nous disait, est-ce que vous avez des podcasts dont vous êtes accro à nous présenter? Et alors là, je laisse Fibre répondre.
Eh oui.
Pourquoi?
Non, parce que tous les vendredis.
Tous les vendredis, je m'occupe du FF. On a déjà tout.
Pourquoi
dit. Bah, on a recommandé. On a recommandé les Démons du Midi.
Oui.
Qui est très très bon podcast de musique de jeux vidéo, le podcast ZQSD de jeux vidéo aussi.
Lagapar.
Podcast de jeux vidéo. Et le dernier c'était Axolot Blog qui fait des votes vidéocasts, c'est super cool, super intéressant.
Très bien. Et si on a des, parce qu'on avait, on ne fait que des FF, on ne présente que des podcasts français ou francophones.
Oui.
Est-ce qu'il y a des podcasts anglais que vous aimez rapidement, Mélissa?
J'ai beau sur les nouvelles techno, vous voulez dire?
Non, n'importe lequel.
Non, j'ai beaucoup aimé Serial, sans surprise.
Bon, c'est vrai. Si vous êtes anglophone, Serial est un véritable.
Uzi's American Life, qui est le parent de Serial, en fait.
Très bien. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui écoutons d'autres podcasts? Daz lui s'en fout.
Si, c'est cool. C'est quoi?
C'est cool. C'est quoi? Ah, ça c'est Big Up. C'est un nouveau podcast qui arrive. Hein.
C'est ça. C'est très intéressant. C'est...
Parce que Daz est invité.
Je dis pas ça parce que je suis dedans.
C'est présenté par Nekoto qui intervient également dans le podcast sur les comics.
Ouais, comics Outcast. Ouais, c'est ça.
Tout à fait. Sylvain.
Moi, j'écoute le Romcast.
Le Romcast.
Ouais, ouais. Qui nous ont interviewé. Hein.
Exactement. Dans un épisode spécial podcast, d'ailleurs.
Trop de copines. Ben, je vous conseillerais What the Tech, qui est le podcast très court format de The Verge et qui parle de choses très simples et qui les explique très simplement.
Notamment les fanfics
étaient très très bien. C'est bien, vous avez de quoi écouter, mais bon, ne nous lâchez pas parce qu'on attaque la toute dernière chronique avec Sylvain. Non, je déconne, c'est bon. Allez, avec Dave, c'est parti.
Sujet numéro 4.
De l'évidente et totale supériorité du PC sur les consoles.
Et pour finir cette longue émission, c'est le Seigneur des Anneaux des émissions, hein. C'est le Director's Cut 3 heures là ce soir là. C'est l'intégrale, tous les bonus DVD,
la voiture balai là, je ramasse tout le monde.
On est au top.
Et Daz, de quoi tu vas nous parler pour cette toute dernière chronique?
Eh bien, je vais parler de PC.
Allez,
pour changer.
Allez.
Parce que nous au Studio 404, on aime le PC. Je le disais l'année dernière, le PC c'est le dernier bastion de liberté qui existe depuis qu'il est interdit de monter à cheval dans les trains et de fouetter ses gosses avec des chaînes de vélo. Pourtant, le PC, objet disgracieux, a longtemps été cantonné aux arrière-salles enfumées et autres lieux interlopes, avec son boîtier béjasse, ses ventilos qui ventilent et son disque dur qui croustille. Le PC a vécu à l'ombre, caché sous le bureau comme une stagiaire à la Maison Blanche sous Clinton, quand les consoles, ces putafranges numériques, trônaient fièrement dans le salon, juste à côté de la télé, au seul prétexte qu'elles étaient jolies. et qu'elles utilisent aussi des câbles Péritel. La situation en était donc là, avec Nintendo, Microsoft et Sony qui se querellaient tels les Lannister, Stark et Baratheon, ne prêtant pas attention à la révolte qui couvait de l'autre côté du mur du salon, malgré les avertissements de la Ségarde de nuit, exilée
bravo,
en 2003,
bravo.
LBG, exilée en 2003 et qui ne cessait de leur répéter « Windows is coming ».
Brace yourself, Windows is coming.
Avance rapide en 2008, le site The Escapist teste The Witcher et crée le terme « Glorious PC Gaming Master Race » pour expliquer que le gameplay complexe et absolument pas intuitif du titre permet d'éviter aux sales gueux de joueurs console, donc « Dirty Console Playing Peasants », de venir le souiller. C'est à peu près à ce moment que les PC Deg, comme on aime encore parfois à les appeler dans certains cercles de joueurs puceaux, adepte de Mario Kart, c'est un pléonasme. Donc les PC Deg réalisent que tel le vilain petit canard, ils ne sont justement pas des colverts tout flingués, mais bel et bien des cygnes BG majestueux, majestueux parce qu'ils ont des touches majuscules, avec voilà. 32 gigas de RAM et une carte graphique qui coûte le prix d'un pavillon à Bobigny. Et il faut bien l'avouer, le jeu sur console, c'est rigolo 3 secondes, mais dès qu'il faut utiliser plus de 5 boutons, il n'y a plus que les BTS compte à gestion qui répondent présents. Tous les 3e techno et les secpa sont partis sniffer de la colle sous le préau à l'arrière de la cour. Du coup, on assiste à un nivellement par le bas dès qu'un titre multi-support sort simultanément sur PC et console. Nivellement du gameplay déjà, pour que ces gueux puissent avoir l'impression d'être bons. Et nivellement technique ensuite, parce que les specs de ces merdes en plastique étant déjà fixées 2 ans avant qu'elles sortent et figées jusqu'à la génération d'après, elles sont déjà obsolètes au moment où elles touchent les étals. C'est pas ma faute, c'est l'industrie qui veut ça. D'ailleurs, si vous voulez vexer une console, c'est très très simple, j'ai une bonne technique. D'abord, vous lui dites Xbox démarrer, parce que c'est comme ça que ça s'allume, c'est double. Hein. Et puis ensuite, vous lui dites 1080p, 60 fps et anti-aliasing. Et là, vous allez observer son petit cœur de silicium prendre feu devant sa propre incompétence. Du coup, j'ai un petit guide simple hein, pour vous aider quand vous êtes en face d'un jeu qui vous semble suspect. Donc si votre jeu est marron-gris, scintille comme pas possible et affiche des textures cracra, s'il y a 122 informations affichées à l'écran, dont votre santé, votre cible, la santé de la cible, sa situation familiale, la marque de son cheval et la route pour l'atteindre, sacrebleu, ne cherchez pas plus loin, c'est un jeu développé en parallèle pour une console. Et là, vous me dites, ok, mais que faire face à ça? Alors, c'est simple. Si vous jouez sur console, ce qu'il faut faire, c'est vous l'éteignez, vous la débranchez, puis vous l'achetez contre un mur de toutes vos forces. Ensuite, vous attendrez 6 ou 7 ans pour la génération suivante en priant qu'elle soit rétrocompatible. Ce qui ne sera pas le cas, je vous le dis déjà, spoiler. Si vous jouez sur PC, alors là, c'est simple, vous ouvrez les options grâce à la touche échappe, vous réglez la difficulté sur PC. Des fois, ils appellent ça adulte, mais bon, là, ça veut dire la même chose. Et dans les options graphiques, vous mettez tous les taquets sur Ultra BG Very High Technicolor et vous profitez. Alors, je sais que certains auditeurs désargentés et sans aucune idée de ce qu'est le beau, avec un B majuscule, vont rager et me dire, bah, c'est faux, il existe des jeux archi complexes sur console comme rien. La console, c'est l'héritière de l'arcade, et l'arcade, je vous le rappelle, ça visait à rentabiliser la machine au maximum en mettant le joueur face à des jeux dont le fonctionnement peut être compris en 12 secondes. Donc, alors, la question, est-il possible de créer un gameplay complexe sur console? Oui. Je répondrai, non. Pourquoi? Parce que les joueurs sont des gogoles impatients, des enfants. C'est comme ça qu'on dit. Mais comment faire alors? Et ben là, c'est très très simple. Il y a des artifices qui existent. C'est que souvent les joueurs consoles, en fait, ces gueux donc ont pas de vocabulaire et ils confondent très très souvent complexe et difficile. Donc il suffit de rendre le jeu plus dur, pas plus complexe. Le jeu peut être très très con, mais très très dur. Voilà. Donc vous mettez Dark, Demon, vous mettez Blood dans le titre.
Oh, ça attaque certains jeux là.
Vous virez de base toutes les béquilles qu'on leur a ajoutées en fait depuis 12 piges, comme la map, les sauvegardes, la santé qui se régénère et tout le reste, et vous sortez votre jeu. Voilà. Et là, les gens auront l'impression d'un seul coup d'avoir un jeu ultra complexe, alors que non, c'est juste de la merde. Ultime preuve que le PC, c'est vraiment l'avenir, c'est depuis à peu près 2 générations de consoles, donc depuis la Xbox 360 et la PS3, les constructeurs tentent de brouiller un peu les pistes en transformant leurs machines, en rajoutant des disques durs à 5400 tours minute. Les pauvres. Des fonctionnalités multimédia, Xbox, ça joue un film. Et des mises à jour du système d'exploitation. Ça, c'est les PlayStation qui se mettent à jour tous les jours. Ils ont mal compris. Mise à jour, ouais, c'est ça. Ils auraient dû appeler ça mise à mois ou mise à année, je sais pas.
Mise à tous les jours.
Et bon, ok, d'accord, j'admets, côté PC aussi, on tente un peu de réduire l'empreinte de l'OS, donc le masque un petit peu, on améliore l'ergonomie, par exemple Big Picture chez Steam, et on tente de réduire aussi les temps de démarrage. Mais bon, si on colle un logo Ferrari sur une Renault 21 Nevada, on trompe personne. Alors qu'un mec qui a une Ferrari, qui met un petit logo Renault sur sa voiture, Ça s'appelle un clin d'œil. Sans rancune, les mecs. Hein.
Oh, alors là, on a trois communautés des consoleux. Comment on les appelle? Les Nintendo Sex, c'est ça?
Les N-Sex.
Les N-Sexuels, les Sonyais pour les Sony. Et les Bouzeux pour les Xbox.
Ah ouais.
Et les gens de Sega, donc, sont les
Segadeg.
Segadeg. Maintenant, on les appelle les DCD.
Donc, tous ces gens-là, tu te les as mis à dos en expliquant la supériorité totale, c'est-à-dire technique, mais aussi. Game design-esque du jeu PC.
Ah oui.
C'est le F de souche du PC en fait.
Non, même pas. Non, c'est vrai que les jeux consoles, c'est mignon, c'est acidulé. Des fois, c'est pas acidulé voilà, du tout.
Il y a des mecs qui vont te
sauter. Dark Souls, c'est super acidulé.
Dark Souls, c'est l'exemple typique du jeu de merde. C'est un die and retry bête et méchant, c'est nul.
Alors, Fibre, toi qui adore les consoles, qui est revenu du PC qui adore Dark Souls, comment tu trouves ça chronique
criminel. Non mais parce que des enfants vont l'écouter, ils vont dire ah mais c'est vrai, il a raison, et ils vont le suivre et ils vont rentrer dans un schéma de souffrance dont moi-même j'ai mis des années à m'extirper.
Mais non,
je suis un ancien PC deg.
En fait, tu en parles comme si t'étais une ancienne femme battue.
J'ai souffert des abîmes, mais je vais vous raconter la souffrance et vous allez partir loin et vous allez jeter votre PC. C'est pas possible, c'est une souffrance. J'ai eu mon premier PC en 1985. Un 1512 noir et blanc sans disque dur, 8 disquettes pour Monkey Island, il fallait changer
je
tout le temps, c'était atroce.
Pas né.
Voilà.
À 386 SX ensuite, il fallait modifier le config.sys chaque fois qu'on envoie. Enfin, en gros, il y a des choses.
C'était à 30 ans, Fibre.
Daz a fait preuve de beaucoup de mauvaise foi, je vais faire preuve d'un petit peu de mauvaise foi en disant une chose qui est quand même très réelle, c'est que quand vous achetez un jeu sur PC, il peut ne pas marcher. C'est con, mais c'est comme ça. Moi, ouais, j'ai clairement. Un PC, j'ai acheté Crusader Kings 2, par exemple. Il marche pas sur mon portable, il marche sur mon PC normal, mais il marche pas sur mon portable. Et ça, c'est les mecs du PC diront,
Mais ça demande pourquoi. Oui, c'est vrai, la question est vraie.
Parce que tout est approximatif sur PC.
Non, attends.
Il n'y a pas de normalisation sur PC. Le PC, c'est un concours de bits. C'est-à-dire, il te l'a dit. Il te l'a dit.
Ton explication.
Non, parce que t'as dit 1024, résolution de malade, tout ça, etc.
Pourquoi un jeu ne marche pas quand tu le mets.
Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, un jeu, tu vois, c'est comme une, par exemple, sur une voiture, en fait, on dit quel carburant faut mettre dedans. Si t'achètes une voiture qui tourne avec du sans-plomb et que tu mets du diesel, ta voiture démarrera pas. Le jeu sur PC, en fait, il y a une configuration requise minimum, en fait. Et si tu matches pas, ton jeu,
Mais non, parce qu'il ne lit pas, puisque c'est un imbécile.
Non, mais moi j'ai la configuration, mais des fois ça marche pas, ok? Des fois le jeu plante et il faut juste le relancer. Tu vois? J'ai vécu ça et je trouvais ça normal. Et je dis, oh c'est cool quand même, tout ça. Et un jour j'ai acheté une PlayStation 2 et là, la lumière divine m'est tombée dessus. Alléluia, des anges et tout. Et tu sais quoi? J'ai acheté un jeu, il marchait. Je pouvais y jouer des heures et il se plantait jamais.
T'as acheté une PlayStation 2 vraiment?
J'ai acheté une PlayStation 2.
T'as acheté la PlayStation 1 aussi, celle qu'il fallait mettre sur la tranche à un moment donné?
Non, ma première console, c'est
une PlayStation 2. Il fallait mettre à l'envers après.
Et j'ai goûté au plaisir d'acheter un jeu qui marche, qui soit normalisé, qui marche pareil que chez ton copain.
C'est vrai.
De la même façon, c'est-à-dire, il n'y a pas le concours de bits en disant Kevin, il a un PC plus fort que le mien, j'aimerais bien en avoir un. Comme ça, je pourrais faire tourner Half-Life 2 aussi bien que lui, tu vois. C'est vraiment la fin de la guerre.
C'est la normalisation.
Jeu marche.
La tristesse, en fait, le nivellement. C'est magnifique.
Tu parles de plein d'indicateurs. Bon, EVE Online, il y en a pas mal non plus, tu vois. C'est une façon de vivre le jeu PC qui est comme le tuning de PC. Il faut avoir le temps. C'est un méta-jeu.
C'est faux.
Mais quand tu veux juste jouer à un jeu.
Je trouve pas ça bête ce qu'il dit.
Si tu veux vraiment jouer à un jeu sans te prendre la tête, tu vas dans un Micromania, t'achètes ton jeu, tu le mets dans la console, tu joues. Fin de l'histoire.
Mais t'achètes
ta console.
C'est
pas si simple. Ouais. Oui, bien sûr, mais il faut que tu
joues. Ah oui, bah bien sûr, ouais.
Sylvain, tu les as regardés se battre comme un enfant qui agace ses parents. ses parents se battent, qui ne sait pas s'il doit défendre sa maman, son papa.
Je suis assez dubitatif parce qu'on s'est toujours donné une règle d'or, c'est d'éviter les combats. Mac PC ou Android.
Oui, mais là, c'est rigolo.
Bon, on se fait un petit PC console, mais en même temps, les autres, on les a fait aussi. Hein.
Ouais.
Non, moi, je suis joueur PC, mais voilà, je suis joueur PC.
Mais tu n'es pas anti-joueur console.
Je suis pas anti-joueur console. Il y a quelque chose de compliqué.
Non, mais je suis pas
anti-console.
Console.
Mais par contre, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que dit Daz, c'est que, en fait, si tu veux jouer à des jeux de console, tu peux le faire sur PC. Ils seront juste plus beaux.
Ah. Voilà, donc c'est encore plus vicieux.
Non, mais c'est vrai.
Tu branches une manette de Xbox
juste
sur ton PC.
J'ai pas dit autre chose, c'est que quand vous êtes sur votre PC, vous êtes sur votre fauteuil sur lequel vous travaillez toute la journée.
Non, je suis sur mon canapé, moi personnellement.
Mais moi perso, ma Xbox elle est sur ma télé.
Ouais, mon PC
canapé,
aussi, moi.
Oui, mais c'est quand même spécial.
Oui, ça s'appelle un câble HDMI, mais je comprends. Non, mais
tout le monde fait pas ça.
Moi, je joue sur vidéoprojecteur.
Voilà, non mais laisse, Oculus Rift. Laisse, il peut pas comprendre. Il peut pas comprendre. Il peut pas comprendre.
Mais ça, tu le vois, c'est, les trois, c'est chardé.
C'est un peu les feux de l'amour.
Toi qui attends encore. 404. Toi qui attends encore de ton grand départ dans le jeu vidéo à tester des premiers jeux.
Non, et... alors, figurez-vous qu'on m'a un peu remis au jeu vidéo.
Ah, c'est vrai.
Ça, alors. T'as joué récemment.
Uniquement sur console.
Mais c'était quoi le jeu?
Bon, alors Mario Kart sur DS.
Bah ouais, mais c'est très bien, c'est un super jeu.
Et Limbo sur.
Superbe jeu.
Sur PC, il existe.
Il est sur PC, sur console, sur les deux.
PlayStation 3.
Ouais, bien
3,
sûr. Il est sorti sur le.
Ça valait le coup hein, d'attendre la PlayStation 3 pour jouer à Limbo.
Ça. Ah, mais ça, elle montre quelque chose, c'est qu'elle s'en fout du nom de la console. Elle joue au jeu.
C'est peut-être ça la lumière qu'on attend tous, c'est que quelqu'un dit je m'en fous tant que le jeu est bon.
C'est magnifique.
Tant que le jeu marche, peut-être.
Alors. Bref, du coup, j'ai pas absolument pas ressenti le truc PC-console vu que je n'étais que sur console.
Alors, si j'essaie. Alors, je vais essayer de synthétiser de manière un poil objective les arguments de tout le monde ici. Disons que je vais te présenter deux offres de jeu. Tu vas me dire si tu t'en fous, s'il y en a une qui t'intéresse plus. On va dire que sur console, effectivement, on a une expérience de jeu, en tout cas technique, qui est figée pendant 5 à 6 ans. Une machine sort, elle n'évolue pas vraiment d'un point de vue performance. Les choses se passent comme ça, tout le monde est sur un pied d'égalité, tu fous ta galette, tu joues.
C'est orienté déjà, comme... mais bon.
Non. Sur PC, tu te retrouves avec une machine qui évolue sans cesse.
À ton rythme.
Qui...
à ton rythme.
Mauvais choix, bonjour.
Qui, effectivement, offre pour plus d'argent, plus de complexité, aussi plus de puissance et de possibilités dans les,
si tu le souhaites.
Dans les jeux. Si tu le souhaites.
Si tu le souhaites. Hein, ouais.
Et qui offre effectivement aujourd'hui, je dirais, un choix de jeux plus varié parce qu'il y a plus de jeux PC qu'il n'y a pas sur console, que de jeux console qu'il n'y a pas sur PC, si je ne m'abuse.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Qu'est-ce que tu choisirais?
Il a oublié un argument qui est que
sur une des deux plateformes, ton jeu que tu as acheté il y a 10 ans, bah, tu peux le faire tourner.
Sur PC, tu parles?
Ouais.
Non, enfin, il a pas dit. Hein.
je l'ai pas dit, mais voilà, j'en pense pas moins.
Parce que sur PC, apparemment, donc, si ton système d'exploitation il correspond pas au jeu,
non, mais
t'es
c'est
foutu.
Fini ça, c'est fini.
Bien,
Windows, c'est
Mélissa, elle a compris le problème.
En fait,
ça, moi, c'est pas possible.
Donc Mélissa, elle est plutôt.
C'est un peu l'obsolescence programmée de l'iPhone.
Mais absolument pas, puisque justement, il y a zéro obsolescence programmée. Ton jeu que t'avais sur Windows 95, il tourne sur Windows 8.
En fait, c'est l'inverse. C'est si t'achètes un jeu d'aujourd'hui pour le faire tourner sur Windows 95,
il marchera pas.
Effectivement, ça marchera pas.
Des informations factuelles de.
Tu peux pas avoir un vieil ordinateur en gros.
Attendez, excuse-moi.
Non,
tu peux pas avoir une vieille console.
Excusez-moi, des informations.
Mais c'est intéressant parce que. Attends, juste fibre. Pour
finir. En train de
des informations factuelles de Daz. Daz dit, je cite, ton jeu acheté sous Windows 95 marche sur Windows XP ou je sais pas quoi. C'est faux.
C'est vrai.
Télécharge un jeu des 95, fais le tour sur ton PC. Il te faut un putain d'émulateur et des putains de configurations pendant 2 heures.
T'émules Windows dans Windows, mais j'ai envie de te gifler tellement tu fais des conneries. C'est incroyable. Le mec émule Windows dans Windows.
Et ben, il faut
magnifique.
Que... Moi, je fais de l'émulation. Je joue à des vieux jeux. Et il faut.
Mais tu joues
il faut
sur.
Que tu te casses le cul. Il faut que tu utilises DOSBox. C'est compliqué.
Bah oui, parce que c'est des jeux sous DOS. Je parle de jeux sous Windows.
Mais même des Windows 95, c'est pas aussi simple. Il faut émuler Windows 95 sous Windows XP.
Mais non, il y a des modes de compatibilité.
Eh ben oui, mais il faut le faire.
Le mec, mais vraiment, mais c'est incroyable.
Il faut le faire.
Incroyable.
Attends, trouve-le ton mode de compatibilité.
Tu fais un clic droit sur l'icône.
Ouais, mais est-ce qu'elle le savait, Mélissa?
Mais vous m'auriez dit.
C'est incroyable. C'est incroyable.
Je vais faire l'envoi, mais je trouve que tout le monde a un peu raison dans l'histoire.
Non, alors je vais dire un truc.
Cliquer droit pour dire un mode compatibilité. D'un côté, je pense que beaucoup de gens n'ont pas envie de te dire. Attends, il faut.
Non. La différence entre l'argument de Fibre et le mien, c'est que moi, quand je critique les consoles, je sais comment elles fonctionnent. Ouais. Fibre, il s'est arrêté au PC en 96, il n'est plus jamais revenu. Donc ça fait juste 20 ans en fait. Les choses ont changé. Le monde a bougé, Fibre.
J'ai arrêté en 2000.
Bon, en
tout cas, c'était il y a 15 ans.
En tout cas,
le mec est complètement légitime.
En tout cas, de ce qu'on a entendu, Mélissa est plutôt, pour l'instant, plus branché console que PC.
Mais enfin,
là, il va me traiter de noob.
Non. Je pose. Sincèrement, si on avait encore le paysage console qu'on avait il y a 15 ans, ça serait totalement légitime. Le fait est que maintenant, les jeux coûtent très cher à produire et que de toute façon, les mecs qui les sortent, hormis de très rares exceptions qui sont les jeux Nintendo, grosso modo, qui sont donc les mêmes depuis 30 ans, il y a plus aucune raison.
Quand t'as essayé de parler objectivement et qu'il dérape sans s'en rendre compte.
C'est clair, c'est exactement ça.
Totalement contrôlé. Il y a aucune raison, finalement. Tu vas jouer, en fait, à un jeu que tu vas considérer comme un jeu console, ça sera en fait un portage multiplateforme de merde, sauf que tu joueras en basse qualité. Je veux dire, si t'as la possibilité d'avoir le jeu tel qu'il a été pensé au départ, c'est-à-dire avec une vraie résolution et un vrai framerate, no offense, pourquoi en fait t'infliger, c'est comme si tu te forçais à regarder un film qui est fait pour la HD sur une télé 36
cm. Alors, dernière chose comme qui compte, l'argent.
Tout à fait, mais alors la différence, mon petit gars, c'est que ta console, rappelle-moi le prix de la PS4, 400 euros.
400 euros.
Voilà. Donc moi, mon PC, en fait, il y a une notion d'amortissement, mais ça aussi, les gens vont avoir du mal à comprendre ça.
C'est compliqué.
Les gens vont avoir du mal à comprendre ça. C'est-à-dire le PC que j'utilise, je l'ai acheté en 2009. Donc j'ai tout monté en 2009 pour un investissement d'à peu près 800 euros.
Ouais.
Je m'en sers encore aujourd'hui.
D'accord.
En 2015. Voilà. J'ai changé la carte graphique, ça m'a coûté 250 balles.
Donc
ça,
c'est 1000 euros sur 5 ans.
À peu près.
D'accord.
Donc, voilà. Au lieu d'avoir 400 euros sur 5 ans.
Non.
Donc, c'est...
Non, parce que entre temps, j'ai eu la PS3, puis la Xbox 360, non. Et la PS4 à 400 balles. Donc, on va dire 400 euros pour chacune des consoles sur 7 ans.
Ah oui.
Mais pour jouer avec des qualités de merde. Une qualité, tu vois.
D'accord, mais tu viens de démontrer que c'était plus cher.
Mais non, parce que.
Je suis désolé.
Parce que
hein.
Moi, je te parle de ça pour jouer avec ce qui se fait de mieux. Voilà.
Et puis sur PC aussi, enfin,
Sylvain,
tu peux faire du traitement de texte.
Mais en plus, excusez-moi, mais GTA 5 sort dans 15 jours. Il est sorti il y a quoi? Un an sur Xbox.
Un an et demi. Ouais. Mais voilà. Il va être beau, hein.
Oh, il va être beau. Hein. Il aura un an et demi de retard, mais il sera super.
Attends, mais il est sorti à combien de temps sur PS3 déjà?
Un an et demi.
Et sur PS4? Il y a 2 mois, voilà, salut.
Non mais
voilà, allez, ciao. Et sur PS4, la version PS4 sera moins belle que la version PC.
Il est pas encore sorti sur PC, on sait même pas s'il va marcher. On sait même pas s'il va se lancer chez les gens.
C'est le yo mama du numérique.
Studio 404, l'émission de société numérique.
Ah, ça faisait du bien d'avoir un petit débat, hein, bien bas du front, bien haut du coude, hein, pour finir sur cette émission qui était un peu trop sérieuse à mon avis. J'espère que ça vous aura fait plaisir, en tout cas. Nous, on se retrouve au mois
de mai. Jouez sur PC.
On se retrouve au mois de mai. Vous pouvez écouter notre podcast sur un PC. Peut-on écouter notre podcast sur une console?
Oui, vous téléchargez sur une clé USB, vous le mettez sur votre Xbox.
Oh bah dis donc, ça a l'air compliqué tout ça.
Non, mais
sur
si vous avez
PC, il faut aller sur le site internet et ça marche tout seul. Incroyable.
Non, il y a aussi
incroyable.
Mais non, on peut aussi.
Oui, il y a un plugin SoundCloud certainement. Oui, qu'il faut télécharger Xbox télécharge. Ouais, très bien, très bien, très bien, très bien. Au mois prochain, les amis.
Allez, Xbox au mois prochain. Ciao.